Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça roule? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir tout le monde. Il est 19h. Ça roule et toi? Ouais, ça roule. Ça roule, ça roule. Mais enfin, je voulais écouter l'interview de Macron par Hugo. Mais ils ont commencé en retard. Ce qui n'est pas grave, hein, c'est pas moi qui vais jeter la pierre à qui que ce soit pour commencer des lives en retard. Le problème, c'est que bah, je me suis endormi en attendant que ça commence. Du coup, j'ai ronqué comme ça. Et puis je me suis réveillé pour mon live. J'ai fait ah merde, ça a commencé. Ah merde, j'ai raté. Non, merde, il parle de quoi? Oh putain. Nul. Nul le streamer en carton. Et il y avait une jolie petite musique d'intro et tout. Et de compte à rebours d'attente. Et bon, bah ça m'a fait endormir. Au pire, ça se regarde avec. Non, mais c'est ça, je regarderai en coupé décalé. Je regarderai plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, à mon avis, il va pas annoncer grand-chose de révolutionnaire à Hugo. C'est encore là. Ouais, c'est encore en live. Non, mais oui, c'est 60 000 viewers sur la chaîne d'Hugo. Bravo à Hugo. Hein. C'est une interview de rentrée du président de la République. C'est cool, bravo à lui. Il est beau le t-shirt, j'ai le même en vert dans mon placard. T'as vu, il est beau. Hein. Il marche bien. Est-ce que tu peux pas réac la vidéo d'Hugo? Non, je peux pas réac la vidéo d'Hugo. Je n'ai pas les droits de diffusion de la vidéo d'Hugo. D'ailleurs, je ne les ai pas demandés. Et je laisse Hugo faire son interview. Il a bien le droit de le faire. C'est pour dire qu'il n'est pas intéressant l'interview. Non, 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 je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, j'en sais rien. Je sais pas. Jaloux? Ah non, non, pas jaloux. Ah non, non, moi non, moi j'ai pas voulu faire d'interview de rentrée d'Emmanuel Macron. Je sais pas. J'ai d'autres trucs. Allez, on reste avec toi quand même. Ah, oh, vous êtes sympa. Ah, vous êtes sympa, ça fait plaisir. Bonjour à vous, hein, bienvenue. Merci pour les resubs. Merci à tous pour les resubs, ça fait plaisir. Macron viendra pas à l'UMA de façon. Non, 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 Macron viendra pas à l'UMA, non. C'est pas très grave. Je suis pas sûr qu'il soit très attendu à l'UMA pour autant, mais. Nu qu'il ait très envie d'y aller au demeurant, c'est pas grave, hein. Merci Sium pour ton resub. Ou alors déguisé. Ou alors déguisé. Ah mais Macron, il a le droit de profiter d'une merguez de la CGT, lui aussi. Mais à ce moment-là, ouais, petit chapeau, petite lunette. Puis il a le droit d'aller kiffer les concerts aussi. Hein. Et vous, vous venez à l'UMA? Et qui c'est qui vient à l'UMA? Vous avez vu quand même. Attends, 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 parce que là, on rigole, on rigole. Là, je vois, vous rigolez. Mais attendez. Vous avez vu quand même qu'on se fout pas de votre gueule. Hein. Si je reprends mon thread d'annonce de la rentrée, qui est toujours en cours, hein, attention, hein, j'ai pas encore tout annoncé. Hein. Vous avez quand même 6 euros d'économie sur le passe 3 jours de la fête de l'UMA. Vous avez 6 euros d'économie sur un passe qui coûte pas méga cher en plus. Hein. La fête de l'UMA, je rappelle, c'est une fête populaire. L'humanité, ils tiennent à ce que ça soit pas cher. Effectivement, la fête de l'UMA passe 3 jours. Le passe 3 jours, il est à 55 € pour 3 jours de festoche. Ça fait partie des moins chers de l'année. C'est vrai que la fête de l'UMA est connue, mais ça a toujours été comme ça, comme étant un des festivals les moins chers de l'année. Et c'est très important pour eux, ils veulent que ça reste populaire, accessible et tout. Merci Chartrou, merci Tom Pouce, merci à vous. Et si vous trouvez que c'est encore trop cher pour vous, 55 balles, eh ben vous avez le code promo Baxit qui vous permet d'avoir 6 euros de réduc pour arriver à 49 balles. Bon, j'ai essayé de faire 49,3. Ils m'ont dit on peut pas faire les virgules, c'est chiant. Je dis bah, c'est pas grave, 49 c'est bien. Voilà. Mais ils ont quand même le sens de l'humour à l'humain, je vous rassure. Il y a aussi le coût du logement, chef. Eh ben, tu prends ta tente, hein. C'est un festoche, hein. Tu prends ta tente sous le bras et tu vas dormir. Hein. C'est le dernier jour que ça devrait être fini, le 55 euros. Ah oui, alors par ailleurs, La fête de l'humain, ils font des tarifs progressifs au fur et à mesure. Plus vous prenez votre place tard, plus ça coûte cher. Donc profitez-en si vous voulez à la fête de l'humain pendant 3 jours et bénéficier de la réduction. C'est jusqu'à aujourd'hui, hein. Tarif valable jusqu'au 0409 à 12h. Ah bah non, c'est fini. Ou alors c'est à minuit? Je sais pas. Bon, profitez-en. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le passe 3 jours. Vous pouvez prendre. Le billet nuit, c'est quoi? Le vendredi 15. Billet nuit, vous permet d'accéder à la fête de l'humain uniquement à partir de 22h30. Ah ouais, non, 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 ah, bah, non, bah, non, prenez pas le billet nuit. Hein. Prenez pas le billet nuit. Hein. Il n'y a pas le billet une journée. Non, 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 c'est ça, ils ne vendent pas par une journée. Ils vendent pas par une journée. C'est forcément le passe 3 jours. Bon, eh ben vous prenez un passe 3 jours et vous venez que le vendredi si vous voulez voir que Quebec-site. Voilà, vous vous démerdez, j'en ai rien à foutre. À un moment, ça va, hein. Merci Kerisa. Merci Exode. Eh, 45 balles pour un festoche quand même. 45 balles pour venir assister à un backseat en public de grande qualité. Et en plus, il y a des concerts, il y a de la bouffe et il y a de la politique et tout. Ça déconne pas. Toujours pas d'horaire. Non, non, mais ce sera annoncé plus tard, mais partez sur le fait que ça va être les horaires classiques de backseat, hein. Ça va être en soirée, ça va être. On est en train de caler l'horaire avec leur gars, etc. Mais l'émission va commencer entre 18h et 19h30 dans ces eaux-là. Ce sera annoncé plus tard, mais voilà. Donc voilà, donc c'est pas cher. Et non, et alors toujours dans le genre pas cher, attendez, pour vous dire qu'on se fout pas de votre gueule. On vous propose l'Humanité, le journal L'Humanité, le journal de Jean Jaurès. Vous propose à vous, et uniquement à vous, un abonnement réduit, offre spéciale Backseat. 5 balles pour 5 mois d'abonnement. Qui peut faire mieux? Voilà, est-ce qu'il y a des journaux qui peuvent faire mieux? Pourquoi il a déjà enregistré mon... Alors, m'envoyez pas de mail hein, sur jeanmassiel@gmail.com. Surtout, ne m'envoyez pas de mail sur ce mail. Je vous dis, c'est ma mail, c'est ma boîte mail spam. C'est ma boîte mail que j'utilise pour m'inscrire sur les sites. Donc c'est la boîte mail où je n'ouvre jamais aucun mail. Jamais. Et ne m'envoyez pas de mail, ça sert à rien. Vraiment, hein, ça fait genre 20 ans qu'elle existe, cette boîte mail. Et elle est spammée toute la journée. C'est que des codes promo, que des trucs, des rappels de machin. Est-ce que c'est un wet shot backseat ou c'est la saison 3? Ah, je sais pas. Je sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Merci Jésus Berry pour ton resub. Merci Julie Kael. Moi, je serais vous. Déjà, moi, je serais vous. Je prendrais l'abonnement. D'ailleurs, moi, je l'ai pris. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, l'abonnement à 5 balles pour 5 mois d'abonnement à l'UMA, je l'ai pris direct. Hein. C'est quand même vraiment pas cher. Moi, je serais vous. Je suivrai mes streams cette semaine. Voilà, faites ce que vous voulez avec cette info. Il se peut qu'il y ait des annonces. Il faut supprimer tes mails, ça pollue énormément. D'accord, j'y penserai. J'y penserai en mettant à jour Flight Simulator avec ses 500 gigas de contenu sur mon disque dur. Je connais pas trop le journal, un invite au chat. L'Humanité est un journal populaire de gauche. Voilà, donc vous attendez pas à lire des trucs de droite dans l'Humanité, vous n'en y trouverez pas. Si c'est ce que vous cherchez dans un journal, vous allez être déçu. Je préfère vous prévenir tout de suite. C'est un journal de gauche, issu historiquement de la grande famille politique du communisme, qui va du socialisme à la gauche révolutionnaire, en passant par toutes les nuances d'altermondialisme, d'antiracisme, de communisme, voilà. Donc ce n'est pas limité au Parti communiste français et uniquement au Parti communiste français. Non, l'Humanité n'est plus ce qu'il a été pendant des décennies, c'est-à-dire le journal du parti. Ce n'est plus ça. C'est une rédaction indépendante, autonome, qui vit sa vie, qui fait ses trucs. Et c'est un journal populaire, donc qui s'intéresse tout particulièrement au sort des classes les plus défavorisées, des travailleurs, des travailleuses, des mutations du monde du travail, des luttes diverses et variées. Voilà. C'est ça, l'Humanité. C'est aussi un journal qui parle de culture, c'est aussi un journal qui parle d'actualité politique et tout, avec un regard assumé de gauche. Voilà. Est-ce que ça vous va comme description? L'abonnement, c'est en format papier. Non, l'abonnement, c'est en format numérique. Non, tu peux pas avoir 5 balles pour avoir un journal quotidien dans ta boîte aux lettres pour 5 euros pendant 5 mois. C'est pas possible. Personne s'y retrouverait économiquement. Donc, c'est uniquement l'offre numérique que vous recevrez avec ces 5 euros. Quel lien a-t-il encore avec le PCF? Aucun. Enfin, des liens de cohérence idéologique et d'amitié, si tu veux. Mais c'est, ce n'est plus... L'Humanité n'est plus le journal du parti. Ça l'a été, par le passé. Mais ça, c'est plus le cas. Voilà, c'est une rédac, c'est un journal qui a sa rédac de son côté et tout. Alors évidemment, en off, évidemment qu'ils se connaissent bien avec le PC, évidemment qu'ils ont des liens plus étroits avec les élus communistes qu'avec les élus de droite, ou que les macronistes. C'est, voilà. Mais c'est pas, il n'y a plus de lien, de hiérarchie. Bon, de toute façon, le directeur de l'Humanité est un sénateur communiste. Une fois que j'ai dit ça. Voilà. Le rédacteur en chef. C'est pas le rédacteur en chef. Fabien Guest, c'est le directeur du journal. Donc bon, il y a quand même des liens. On va pas se mentir, il y a des liens. Il y a des liens. Il y a des liens. Est-ce qu'ils sont indépendants? Oui, ils sont indépendants. L'Humanité, c'est un journal indépendant qui n'appartient pas à un richissime propriétaire, machin. C'est aussi un journal qui est dans la merde économiquement et qui, du coup, reçoit le soutien d'abord de ses lecteurs qui s'abonnent. Et voilà. Jean, t'as pas besoin de nous convaincre, on va l'acheter. Ah non, non, mais il y a peut-être des gens qui hésitent, qui savent pas trop. Bah voilà, morale de l'histoire, si vous connaissez pas trop l'UMA, si vous savez pas trop ce que c'est comme journal, si vous en avez déjà entendu parler sans trop savoir et tout, pour 5 balles, vous avez 5 mois, en 5 mois, vous avez le temps de vous faire une opinion. Après, vous faites ce que vous voulez, les enfants. Et par ailleurs, l'Humanité organise un festival chaque année qui s'appelle la Fête de l'Humanité, Fête de l'UMA pour les intimes, qui est un festival de musique, mais aussi un festival politique. Ça fait près d'un siècle que ce festival existe, et que c'est un grand rendez-vous annuel de la gauche et des proches du communisme, avec plein d'associations, de syndicats, de militants, de sympathisants, de festivaliers divers et variés, puis aussi des gens pas politisés qui s'en battent les couilles, qui viennent à la fin de l'été. Et c'est ça qu'on appelle la fête de l'UMA. Merci The Sarrazin, merci Guillaume Lours. Donc profitez de cette offre, merci à l'UMA de faire ce geste en direction de la communauté de Baxit, moi ça me fait plaisir, je leur ai déjà dit, je leur redis, merci à eux de vous permettre de vous abonner pour pas cher, pour découvrir ce beau journal. Et donc je vous rappelle qu'à la fête de l'UMA cette année, il y aura l'émission Baxit le vendredi 15 septembre prochain, en direct de la fête de l'UMA, et ça va être cool. Est-ce que la fête de l'UMA va financer Baxit? Non, la fête de l'UMA ne finance pas Baxit, c'est un partenariat, c'est comme Libé quand on avait fait pour les 50 ans du journal Libération, c'est un partenariat où l'UMA met des moyens, participe à financer l'émission sur place, mais, et nous aussi on finance aussi cette émission, enfin chacun fait un effort et on fait entrer des carrés dans des ronds, mais c'est pas quelque chose qui rend possible le financement à long terme de l'émission, ça reste un très beau partenariat qui nous fait super plaisir. Et qui ne nous met pas dans la merde économiquement, et eux non plus. Voilà. Donc c'est cool de leur part, c'est cool de leur part, c'est cool de la nôtre, et on est contents, eux et nous, de vous offrir cette émission. Ce Baxit sera-t-il axé sur le journal L'Humanité? Non, ce sera une émission Baxit en partenariat avec L'Humanité, donc nous serons avec des journalistes de L'Humanité en plateau, pour faire une émission Baxit spéciale, comme on avait fait avec Libé pour les 50 ans de Libé. Il y avait des journalistes de Libé sur le plateau avec nous, on a papoté, on a discuté de Libé, on a parlé de l'actu, on a croisé les regards, finalement. Et ben là, on va faire pareil, avec les copains de l'UMA. Je dis les copains parce qu'ils sont absolument adorables, les journalistes de l'UMA sont vraiment très sympathiques, en plus d'être des très bons journalistes. Je pourrais pas y aller pour deux raisons, difficulté à me déplacer et pas en France à ce moment-là, puisqu'actuellement en Israël pour le boulot. Bon, c'est une bonne excuse. Tu es autorisé, tu as un mot d'excuse valable. Les autres, vous avez pas d'excuse. Hein. Les autres, je vais vous voir à la fête de l'UMA, une bière à la main, sourire sur le visage, et on partage des chipots, hein, ou des merguez, c'est vous qui voyez. Merci Camille. Merci Florian. Est-ce que tu connais l'Inter par cœur? L'International? Ah non. Bon, je connais comme tout le monde le premier couplet et le refrain, mais non, non, je connais pas l'International par cœur. Y aura un ou des unités politiques? Invité! Ah, invité politique, pardon, il manque un V dans ton mot. Oui, ce sera annoncé plus tard. Ne vous pressez pas trop. Ça va arriver. D'autres annonces sont à venir. Suivez ma chaîne. C'est tout ce que je peux vous recommander. C'est de suivre ma chaîne pour avoir des infos. C'est quoi les autres annonces secrètes? Très bonne question. Si tu savais. Bref. Comment va le Potichat? Le Potichat va bien, il vous embrasse. Et puis sinon, bon bref, si vous pouvez pas venir à la fête de l'UMA physiquement, c'est dommage pour vous. Charge à moi de vous faire regretter de pas être venu. Croyez-moi, je vais vous faire regretter. Hein. Vous allez vous dire, putain, je manque un truc. Et vous pourrez regarder évidemment Backseat chez vous sur Twitch. Ça reste une émission Twitch, tranquille. Vous allez pouvoir vous gratter les couilles. Pardon, vous prélasser dans votre canapé en regardant Backseat le 15 septembre. Donc ouais, non, je voulais vous proposer une petite revue d'actu de rentrée parce que mine de rien, il s'en passe des choses en ce moment. Ça fait des semaines que je me dis, ah tiens, ça, faudra que j'en parle dans ma revue d'actu de rentrée, mais en fait, ça s'empile. Il y a un milliard de trucs, tout le monde fait sa rentrée, Darmanin fait sa rentrée, Wauquiez fait sa rentrée, Ciotti fait sa rentrée. Les écolos ont fait leur rentrée, les communistes ont fait leur rentrée, les socialistes ont fait leur rentrée, les insoumis ont fait leur rentrée, Elisabeth Borne a fait son interview, Emmanuel Macron a lancé les hostilités avec une interview dans Le Point. J'ai acheté Le Point spécialement pour lire cette interview et j'ai un milliard de trucs à en dire, mais je ne les dirai pas parce que, en fait, elle a déjà vieilli cette interview. Parce qu'entre-temps, il y a eu la nuit du 30 août où il a réuni les chefs de parti, se sont dit plein de trucs. C'est le bordel! Ça y est, c'est reparti pleine balle, il y a de l'actu politique matin, midi et soir. Et moi, je suis pas là. Et moi, je suis pas là pour vous la commenter. Donc voilà, vous devez vous sentir seul, perdu. Dans ce monde de brut où il y a de l'actu tous les jours. Et vous vous dites, bah, il est où mon streamer préféré? Il fait pas de revue d'actu, c'est un gros nul. Quelle déception. Quelle déception. On a froid. Mais oui, vous êtes perdus. Je vous vois, tels des petits oisillons, seuls dans leur nid comme ça. Le bec ouvert, attendant la nourriture. J'ai employé le terme de cuistre perso. Ah, mais je te comprends. Mais vous inquiétez pas, papa est là. Je suis de retour. Je suis de retour et on va lire ensemble des articles. On va se remettre dans le bain de l'actu. On va parler d'actu politique. On va reprendre tranquillement la programmation de cette chaîne tout au long du mois de septembre. Et je vous rappelle qu'au mois de septembre, il y a des annonces qui vont arriver. Il y a des émissions spéciales qui vont arriver que je vais vous annoncer bientôt, etc. Donc on va avoir un bon gros mois de septembre. Et ça, c'est chouette. Et puisqu'on parle du mois de septembre, après promis, j'arrête de faire ma raclure. C'est le septembre sur Twitch. Donc je vous rappelle que chaque mois de septembre sur Twitch, il y a des promos sur les abonnements pour vous abonner à ma chaîne. C'est des promos spécialement faites pour ma chaîne. Mais que vous pouvez aussi utiliser sur les autres chaînes parce que je suis sympa. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais sachez que ça marche particulièrement bien sur ma chaîne. Vous avez 25% de réduction si vous vous abonnez pour un mois. Vous avez 25% de réduction si vous vous abonnez pour 3 mois d'un coup. Vous avez 30% de réduction si vous vous abonnez pour 6 mois d'un coup. Et ce n'est valable que pour les nouveaux abonnements. La promo te fait gagner moins ou la promo est sur la part de Twitch? Ça, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. J'en sais rien. Non, ça, c'est une bonne question. Je sais pas. J'espère pas. Donc, faut se désabo. Non, c'est pas ce qu'il a dit, le monsieur. Non, 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 vous désabonnez pas. La promo est sur Twitch. Salut Altice. La promo est sur Twitch. Bon, bah, la promo, c'est sur Twitch. Donc, moi, je gagne toujours autant d'argent. Merci, ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure. La promo est payée par Twitch. Eh ben merci Jeff Bezos. Merci Jeff Bezos. On t'embrasse. Doucement. Salut, j'ai un entretien pour devenir conseiller pour un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. T'aurais des conseils? Non. Courage. Mais c'est cool. Mets une cravate. Ouais. Essaye de te prendre une douche quand même avant d'y aller. Sinon, ça fait mauvais genre. Après, je sais pas quel groupe, dans quel groupe tu vas. Hein. Non, mon seul conseil, c'est essaye d'être opérationnel. Voilà. Ce genre de poste, on cherche des gens opérationnels vite. Donc, il faut que tu sois déjà opérationnel. Faut pas que t'aies de temps de formation chelou, relou. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, tout le monde est en retard. Alors, j'ai quelques articles que je me suis mis de côté pour qu'on se remette dans le bain de l'actu. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on se remet dans le bain de l'actu? Peut-être, il y a un article qui balaye l'interview d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, la première ministre, qui a donné une interview de rentrée. C'était sur RTL, la veille de la rentrée scolaire. C'est toujours bien de commencer par le menu de la chef du gouvernement, parce que c'est un peu elle qui a le calendrier parlementaire entre les mains. On se doute qu'il y a des gros textes qui vont arriver parce qu'on les connaît par avance. Il y a le budget. Je vous rappelle que chaque été, enfin chaque automne, pardon, les parlementaires discutent du budget de l'année suivante. Donc c'est le moment où ça parle d'impôts et de dépenses publiques et de diverses taxes, etc. Et puis de la politique économique du gouvernement et des comptes publics. Donc c'est un texte important et ça, on sait qu'il va arriver. On sait aussi qu'il y a le texte de loi sur l'immigration qui a été teasé tout au long de la première moitié de l'année 2023 qui va arriver en discussion avant Noël. Donc voilà, donc il y a des gros textes qui sont en préparation. Je vous propose qu'on lise un article du journal Le Monde qui balaye un petit peu l'actualité de cette interview de la Première ministre Elisabeth Borne. Comme ça nous remet un petit peu dans le bain. Les abayas, ah bah il y a d'autres sujets quand même. Oui, il y a d'autres sujets que l'abaya. Alors évidemment, ça c'est la polémique de rentrée scolaire. Chaque année, c'est normal. Il y a toujours la polémique de rentrée scolaire. Quand il y a une rentrée scolaire, il faut faire une polémique. C'est, je sais pas, c'est obligatoire. Je sais pas, ça doit être écrit dans les statuts des journaux, un truc comme ça. Cette année, c'est l'abaya. L'année dernière, c'était l'allocation d'entrée scolaire. Non, je sais pas, il y a un peu tout le temps une polémique de rentrée. Donc voilà. Il y a les élections sénatoriales. Tu as raison, Tom Pouce, de rappeler qu'il y a les élections sénatoriales qui vont arriver bientôt, fin du mois de septembre. Début du mois d'octobre, en octobre, en octobre. Donc voilà. Elisabeth Borne fait sa rentrée politique, cigarette puff, utilisation du 49.3, interdiction de l'abaya à l'école, ce qu'il faut retenir. La première ministre a accordé un entretien à RTL, c'est la radio RTL pour ceux qui ne connaissent pas, à la veille de la rentrée scolaire. Elle a annoncé l'interdiction prochaine des cigarettes électroniques jetables et notamment déclaré, deux points, je cite, on aura à recourir certainement cet automne à des 49.3 parce que notre pays a besoin d'un budget. Fin de citation. Regardons un peu ce qu'elle a dit dans cette interview. À la veille de la rentrée scolaire, alors que le gouvernement prépare la rentrée au Parlement, notamment avec l'élaboration du budget de l'État de l'année 2024, qui sera soumis à l'automne, la Première ministre Elisabeth Borne a accordé un entretien à RTL le dimanche 3 septembre dernier, c'était hier. L'interdiction prochaine des mini-vapoteuses jetables puff, le recours à des 49.3 certainement cet automne au Parlement, ou encore défense de l'interdiction du port de l'abaya à l'école et propriété et priorité donnée à l'hébergement des enfants vivant sans toit. La chef du gouvernement est revenue sur plusieurs thèmes d'actualité. Voici ce qu'il faut retenir. Les cigarettes puff bientôt interdites. Lors de son entretien, Elisabeth Borne a confirmé que la fiscalité sur le tabac n'augmenterait pas en 2024. Elle a toutefois annoncé que les cigarettes électroniques jetables puff, très à la mode chez les jeunes, serait, elle, prochainement interdite dans le cadre du plan anti-tabac prévu pour la période 2023-2028. Le gouvernement, je vous rappelle, l'État, mène des politiques anti-tabac, ça vous le savez, il y a des augmentations du prix du tabac, mais pas tout le temps, il y a le paquet neutre, il y a l'interdiction des publicités, etc., etc., etc. Et dans le cadre de ces politiques anti-tabac, il y a parfois des trucs un peu plus ciblés, notamment sur les trucs en direction des jeunes. Ça fait un bout de temps qu'on en parlait de ces cigarettes électroniques jetables. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que sont les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables, qui sont particulièrement prisées chez les jeunes, et pour la très bonne raison qu'elles sont marketées en direction des jeunes, et que c'est une clientèle qui est visée par les industriels qui vendent ces trucs-là. Et c'est donc dans le collimateur des pouvoirs publics qui souhaitent lutter contre le tabagisme précoce, et lutter contre les habitudes qui sont prises avec ce type de cigarette. Et donc voilà, donc Elisabeth Borne met fin au suspense. Il y aura bel et bien une interdiction à terme de ces cigarettes électroniques jetables. On verra les modalités précises du truc. Donc voilà. Je cite la Première ministre. On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année. On ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Alors, augmenter la fiscalité sur le tabac, je vous rappelle que c'est la manière d'augmenter le prix du tabac. Le prix du tabac est contrôlé par l'État via les taxes sur le tabac. Ce n'est pas, enfin, ce n'est pas libre. Si, les cigarettiers sont libres de mettre le prix qu'ils veulent, mais la réalité, c'est que le prix des taxes fixe de facto le prix de vente des cigarettes, et c'est un moyen de lutter contre le tabagisme que de jouer sur le prix des cigarettes. Le problème étant que la fiscalité du tabac, donc le prix des cigarettes, ça pèse principalement sur les populations les plus fragiles. Donc c'est difficile de mener des politiques en faveur du pouvoir d'achat, notamment des personnes les plus fragiles, tout en augmentant la fiscalité du tabac. Raison pour laquelle Elisabeth Borne annonce ne pas souhaiter toucher à nouveau à la fiscalité du tabac cette année encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac, a nuancé Madame Borne, précisant que le tabac, c'est 75 000 morts par an, un chiffre énorme et un enjeu important de santé publique. Dans ce sens, le gouvernement présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes, a-t-elle précisé. Je me pose une question. Les interdictions comme le puff ou l'abaya, elles peuvent être annoncées sans aucun vote à l'Assemblée. Oui, ce sont des décisions qui relèvent du pouvoir réglementaire. Je rappelle que le pouvoir réglementaire, ce sont des décisions qui peuvent être prises par le gouvernement seul en application des lois. En l'occurrence, la politique de lutte anti-tabac est en grande partie une politique réglementaire. Assez peu besoin de voter des lois. Il y a déjà des paquets législatifs qui existent et qui permettent au gouvernement d'agir. Dans le sens de la lutte contre le tabac. Et pour l'abaya, c'est pareil. C'est une clarification réglementaire de l'interprétation de la loi de 1905 soumise au contrôle du Conseil d'État. Donc voilà, depuis la loi de 2004, il n'y a plus besoin de voter de nouvelles lois. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les puffs. On aura à recourir certainement cet automne à des 49.3. Alors, le 49.3, Elisabeth Borne, on sait qu'elle l'utilise beaucoup, en tout cas l'année dernière. C'est sa première année d'ailleurs. Elisabeth Borne a soufflé les bougies de sa première année à Matignon cette année. Et sa première année a été marquée par un usage répété du 49.3, notamment au moment des lois budgétaires, mais également au moment de la réforme des retraites. Elisabeth Borne s'était engagée à modérer le recours à l'article 49.3 au Parlement à l'issue de la séquence tumultueuse de la réforme des retraites, adopté au forceps par le gouvernement avec cet outil constitutionnel. Elle a toutefois reconnu dimanche qu'il serait difficile de se passer de 49.3 concernant le vote des budgets de l'État et de celui de la sécurité sociale, dont les projets de loi seront soumis au Parlement à l'automne. Je vous rappelle que quand on parle des lois budgétaires, il y a deux lois budgétaires qui sont votées chaque année. Il y a une loi de finances, qu'on appelle le PLF, le projet de loi de finances, qui fixe le budget de l'État et les ressources afférentes, les impôts et les taxes, pour le financement de l'État et les dépenses de l'État. Ce ne sont pas les collectivités locales, ce ne sont pas les entreprises, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est l'État et uniquement l'État. Les profs, les policiers, l'armée, l'hôpital, etc., etc. Ça, c'est le premier budget. Le deuxième budget, c'est une loi de financement de la sécurité sociale. C'est la part que met l'État dans le financement de la Sécu. Et cette deuxième loi, donc on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS. Vous entendrez ce mot souvent sur ma chaîne, faites-vous à l'idée, ça désigne cette loi-là. Et ces deux lois-là, effectivement, ont été adoptées l'année dernière avec le recours au 49.3. Et Elisabeth Borne évente un secret de Polichinelle en disant qu'elle aura a priori besoin à nouveau du 49.3 cette année encore pour faire passer son budget. Pourquoi? Bah pour la même raison que l'année dernière. C'est que ça n'a pas changé. Vous aurez remarqué que le nombre de députés n'a pas bougé depuis l'année dernière, que les équilibres politiques sont les mêmes que l'année dernière et que les choses n'ont pas bougé. Il y a toujours autant de macronistes, il y a toujours autant de NUPES, il y a toujours autant de républicains, il y a toujours autant de RN. J'ai envie de dire, quand Elisabeth Borne, elle dit on va certainement recourir à l'automne à des 49.3, il ne faut pas être surpris. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a toujours pas de majorité. Il y a des majorités de projets vite fait, sur deux, trois sujets, on va en reparler, mais sur des budgets, bah voilà quoi. Sur les textes financiers, et notamment le budget et le budget de la Sécu, les oppositions considèrent que voter un budget, c'est dire son appartenance à une majorité, a argumenté la chef du gouvernement, évoquant là un droit tout à fait respectable. Oui, je me permettrai de compléter la chef du gouvernement, les oppositions ont raison de dire ça. Les oppositions considèrent que voter un budget, c'est dire son appartenance à une majorité. Bah oui, oui, c'est effectivement le cas. Voter un budget, voter pour un projet de loi de finances, c'est affirmer qu'on est d'accord en tant que député pour la politique menée par le gouvernement. C'est quasiment un vote de confiance. Donc, quand t'es opposant au gouvernement, bah, a priori, tu votes pas le budget parce que t'es pas d'accord avec la politique du gouvernement. Le budget, je vous le rappelle, et c'est important de le garder en tête, c'est pas simplement des tableurs Excel avec des budgets, avec des taxes et des crédits. Non. Le budget, c'est le support technique qui rend possible une politique gouvernementale. C'est ça, un budget. C'est dans tous les domaines de l'action de l'État, les crédits qui sont les moyens d'action. Si tu es d'accord avec la politique du gouvernement, bah tu votes les crédits du gouvernement. Si tu es en désaccord avec la politique du gouvernement, a priori, tu vas être en désaccord avec les crédits que le gouvernement prévoit pour mener sa politique. Est-ce que tu as plus compris, Ficupo? Est-ce que ça te paraît plus clair ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas eu une méga union de la gauche cet été? Attends, on va y venir. Un peu, oui. Voilà, donc le budget, c'est considéré comme une des lois les plus importantes de l'année parce que c'est simplement la prévisibilité, c'est le budget prévisionnel de l'action du gouvernement, de sa politique économique, de sa politique sociale en partie, de sa politique en matière de finances publiques, etc. Ça donne le récap. C'est un peu ça. Ça donne un peu le récap de toute la politique du gouvernement. Le budget, quand tu votes pour le budget de l'année prochaine, ça veut dire que tu es d'accord avec pour donner au gouvernement les moyens de la réussite de sa politique, sous-entendu de sa réussite politique. Donc que tu es d'accord avec lui. Et donc voilà. Donc effectivement, Elisabeth Borne a raison de faire du vote du budget un positionnement politique particulièrement important pour les députés. Voter en faveur d'un budget, c'est appartenir à une majorité. Voter contre un budget, c'est se placer de facto dans l'opposition, et s'abstenir de voter un budget, c'est ça sert pas à grand chose. Comment on fait pour l'abonnement à l'Humanité? Tu fais point d'exclamation Huma dans le chat et tu cliques sur le lien. Tu dis oui ou non à l'État en gros. Non, tu dis oui ou non au gouvernement. L'État, c'est l'appareil administratif, le gouvernement, c'est l'équipe qui dirige politiquement cet appareil administratif. Tu vois la différence? C'est un peu comme si le capitaine d'un navire fixait un cap et qu'il mettait en œuvre le réglage de voile pour suivre ce cap. Si t'es d'accord pour suivre le cap, t'es d'accord avec le réglage de voile qui va avec, ça a du sens. Parce que le vent, il est dans. Voilà, ça avance. Si t'es pas d'accord avec le cap, bah tu vas pas être d'accord avec le réglage de voile. Toi, tu proposes un autre cap avec un réglage de voile différent. Et bah voilà. Je sais pas si mon allégorie elle est bonne, mais t'as l'idée. L'État c'est le jeu, le gouvernement c'est le MJ. Si tu veux. Si tu veux. S'abstenir c'est valider en vrai. S'abstenir c'est participer indirectement à l'adoption parce que toutes les voix comptent, donc si t'apportes pas ta voix en faveur, enfin si t'apportes pas ta voix en défaveur, tu n'empêches pas l'adoption du texte. Mais si t'es d'accord avec le réglage de la voile, bien que le cap te semble mauvais. Bah oui, mais non. C'est précisément parce que le cap te semble mauvais que tu n'es pas d'accord avec le réglage de voile, puisque le réglage de voile dépend du cap. Un gouvernement qui décide de mener une politique de la demande, bah il va voter un budget de la politique de la demande. Mais si toi t'es pour une politique de l'offre, bah tu vas pas être d'accord avec son budget. Parce que précisément, c'est écrit dedans, c'est détaillé dans le tableur, c'est voilà, il propose de faire une politique de la demande. Mais tu dis, bah d'accord, mais moi je veux pas. Effectivement, vos calculs sont bons dans votre idéologie, mais moi, c'est pas la mienne. Je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bref, vous avez compris. Dans une telle équation politique, alors que le gouvernement se retrouve sans majorité absolue au Parlement, ouais, enfin, ça fait un an qu'on le sait, Madame Borne a reconnu, on aura à recourir certainement cet automne à des 49.3, parce que notre pays a besoin d'un budget. Oui, bah oui. Oui, ça d'accord. Ça a toujours été le cas. Hein. Il faut un budget. Pardon, excusez-moi. Il faut un budget pour soutenir une politique gouvernementale et puis même tout simplement pour payer les fonctionnaires. Donc il y aura à nouveau des 49.3, pas de surprise. Défendant le texte dans le camp présidentiel, non, défendant les textes que le camp présidentiel a réussi à faire adopter depuis un an et demi, notamment sur le pouvoir d'achat. Bon, ça c'était à l'été, c'était juste après la présidentielle et législative, mais bon, j'ai envie de te dire, c'était pas le plus compliqué à faire adopter celui-là. Comme sur l'énergie, ça c'est vrai, les textes sur l'énergie renouvelable, ça aussi ça a été voté 149.3. Elle a par ailleurs fait valoir que le gouvernement avance, mais les oppositions, évidemment, veulent faire croire le contraire. Oui. Enfin, non, c'est pas qu'elles veulent faire croire, c'est qu'elles sont pas d'accord. Mais bref, on se comprend. Non, mais on t'a compris, Elisabeth. Vas-y, on continue. Ce faisant, elle a fustigé les comportements de certains députés dans l'hémicycle, en train de hurler, de s'invectiver, et l'image qu'ils donnent des débats, une attaque à peine voilée en direction des élus insoumis. On connaît, on a passé les 9 minutes 23 à parler de ça. Ok, on avance. Le nombre de 49.3 pour un mandat n'a pas déjà été dépassé. Non, le nombre de 49.3 utilisable par un gouvernement est illimité en matière de texte budgétaire. Il est limité en matière de loi ordinaire. Une loi ordinaire, c'est une loi non budgétaire. Pour faire simple. donc voilà, en matière de loi budgétaire, tu peux utiliser autant 49.3 que tu veux, c'est illimité. Donc non, et non, Elisabeth Borne n'a pas cramé son quota de 49.3, il n'y a pas de quota en matière budgétaire. Interdiction de l'abaya à l'école, Madame Borne récuse toute stigmatisation. Après l'annonce la semaine dernière par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, de l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires dès la rentrée, Elisabeth Borne a également récusé dimanche toute stigmatisation des élèves. Elle a dénoncé au passage les tentatives de provocation et de manipulation sur la question, notamment de la part de la France Insoumise. Décidément, Elisabeth Borne ne lâche pas le morceau, elle fait de la France Insoumise son principal opposant, et elle tape à bras raccourcis dessus. Je cite la Première Ministre, « Je vois bien qu'il y a de la manipulation et des tentatives de provocation de la part de certains, je pense notamment à LFI, mais je veux dire les choses très clairement, il n'y a aucune stigmatisation, chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa religion, a toute sa place dans notre pays », a-t-elle assuré. Sur la même ligne que le président de la République qui a martelé vendredi lors d'un déplacement dans le Vaucluse vouloir que les toits soient intraitables, je cite, pour faire respecter l'interdiction, la chef du gouvernement a ensuite avancé, il y a un principe, c'est la laïcité, il y a une loi qui interdit le port de tout signe ou tenue par lequel un élève manifeste son appartenance à une religion, c'est la loi de 2004, c'est la loi qui doit s'appliquer à tous et nous veillerons à ce qu'elle soit bien appliquée. Donc le gouvernement se défend de jouer la polémique et de faire la stigmatisation, il dit « nous faisons que préciser l'application de la loi de 2004 qui fait consensus dans la classe politique. » Pas consensus, mais il y a une large majorité en faveur des principes de la loi de 2004 et donc nous nous bornons à préciser son application. Voilà. L'abaya, c'est religieux. Le gouvernement considère que l'abaya est un vêtement qui marque une appartenance religieuse marquée. C'est la position du gouvernement et c'est d'où l'interdiction du port de l'abaya. L'interdiction qui vaut aussi pour le port du kami, version masculine de l'abaya, fait cependant l'objet d'un référé liberté devant le Conseil d'État par une association de défense des musulmans et est critiquée par une partie de la gauche divisée sur la question. C'est vrai que la gauche est divisée sur la question, ça fait 20 ans que la gauche est divisée sur la question, c'est pas nouveau. Le référé liberté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême de l'ordre administratif, c'est le tribunal qui a la possibilité de casser les décisions du gouvernement. Le gouvernement, lorsqu'il prend des décisions, lorsqu'il prend des décrets, des règlements, ce genre de trucs, donc du domaine réglementaire, le gouvernement a l'obligation de respecter la loi. Qui est-ce qui vérifie que le gouvernement respecte la loi ? Eh bien, c'est le Conseil d'État. Et qui est-ce qui a le droit de se plaindre devant le Conseil d'État ? Eh bien, c'est tout le monde. Vous avez le droit de dire bah, « moi, je ne suis pas d'accord avec le décret du gouvernement, je considère qu'il viole la loi ou qu'il fait une interprétation abusive de la loi ». Etc. Vous pouvez donc faire ce qu'on appelle un référé liberté, c'est un type de recours que vous pouvez faire. Un référé, ça veut dire que c'est en urgence, donc vous demandez l'annulation express de la décision du gouvernement, et un référé liberté, c'est un référé pour plaider que votre liberté est attaquée par une décision du gouvernement. Voilà. Donc un référé liberté, c'est un recours qui est fait par une association devant le Conseil d'État pour dire bah, « nous, on n'est pas d'accord avec l'interdiction de l'abaya, on considère que c'est attentatoire à la liberté des musulmans. On va demander au juge, on va apporter des arguments devant le juge pour dire que selon nous, la loi de 2004 est outrepassée par cette interprétation qui est faite par le gouvernement. Charge au Conseil d'État de trancher. » C'est bon, vous l'avez en tête ? Donc je ne sais pas quand est-ce que le Conseil d'État va rendre sa décision sur ce référé liberté. Peut-être qu'il l'a déjà fait d'ailleurs. Parce que cet article, il date de la semaine dernière, donc je sais pas, j'ai pas suivi. Il a 48 heures. Publié hier à 14h10. Je sais pas. Écoutez, de toute façon, on verra. Normalement, c'est sorti. Et bah, Marie, si tu le trouves, tu me dis. Mais moi, je l'ai pas vu passer. En même temps, j'étais en train de dormir comme un connard, donc. Ah bah ouais, ah bah voilà, ça fait des siestes, ça peut pas suivre les référés liberté du Conseil d'État. Putain, la honte, ce streamer. Donc on verra la suite de ce référé. Il y a assez peu de chances que ça, à mon avis. Hein. Je suis pas conseiller d'État, mais à mon avis, voilà. Ça se prononce Camis. Ah d'accord. D'accord. Le gouvernement travaille afin que l'hébergement des enfants sans toit soit une priorité. Elisabeth Borne a également été questionnée sur le sujet de près des 2000 enfants qui sont sans solution d'hébergement en France en cette fin d'été, à l'approche de la rentrée scolaire. Un chiffre révélé mercredi par le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité. La Première ministre qui dit « Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence, donc ce n'est pas normal que malgré toutes ces places, il y ait des enfants qui soient à la rue. » Sans déconner. Et elle a fait savoir avoir demandé au ministre du Logement, Patrick Vergriete, ainsi qu'à son ministre de tutelle, Christophe Béchu, de travailler avec les acteurs du logement pour qu'il y ait clairement une priorité pour loger ses enfants. Je n'ai pas de doute qu'on doit avoir à offrir un toit. Je n'ai pas de doute qu'on doit avoir à offrir un toit à chacun de ses enfants, a déclaré Madame Borne. Voilà pour ce compte-rendu rapide de cette interview d'RTL sur les priorités de la Première ministre en cette veille de rentrée scolaire. Il y aura donc un plan qui va être présenté bientôt sur la priorité pour le logement des enfants de la part du ministre du Logement et de son ministre de tutelle, Christophe Béchu. Un ministre de tutelle, c'est un ministre supérieur à un autre ministre, c'est un ministre qui chapeaute différents ministres. Pam. C'est examiné demain par le Conseil d'État. D'accord. Merci Boromizier pour ton Prime, merci à vous pour vos abonnements, merci pour votre soutien, ça fait plaisir en cette rentrée. C'est effectivement une très bonne résolution de rentrée que de s'abonner à ma chaîne. C'est validé par les autorités sanitaires. Vous avez raison. Bon, pas grand-chose de nouveau dans cet article, dans cette interview d'Elisabeth Borne. Elle tape sur la France insoumise qu'elle accuse d'être responsable des divisions, machin, et de faire de l'opportunisme et du communautarisme et tout. Rien de nouveau sous le soleil. L'interdiction des puffs, ça pendait au nez de l'annonce du prochain plan de réduction du tabagisme qui va être présenté par le ministre de la Santé bientôt. Et l'hébergement d'urgence des enfants, bon bah, c'est une annonce de bonne volonté de la part de la Première ministre. Peut-être qu'il y aura des places supplémentaires. Honnêtement, je sais pas. On verra. Y a pas, voilà. Il fallait pas s'attendre à des annonces rocambolesques. Et puis par ailleurs, voilà cet aveu qui n'en est pas un que oui, il y aura des 49.3 sur le budget de cette année. Bah oui, il y aura des 49.3 puisque ça, voilà, la situation est la même que l'année dernière. Donc là, pareil, la Première ministre, c'est pas un scoop, hein. Merci Ninja, merci Ozzy, merci Waikiki et merci Tira du 13 pour vos resubs. Pourquoi un ministre de tutelle s'il y a un premier ministre? Tu as raison, par définition, la première ministre, c'est la ministre de tutelle de tous les ministres. Ben oui, puisque c'est la chef du gouvernement. Ben oui, mais le gouvernement est organisé en ministères et les ministères ont des pôles ministériels qui ont des cohérences d'action et de politique publique. Donc le ministère de l'économie a la tutelle sur le ministère du numérique, sur le ministère du tourisme, sur le ministère des petites et moyennes entreprises, sur le ministère des finances publiques, etc. C'est logique. Le ministre de l'écologie a la tutelle sur le ministère du logement, sur le ministère de l'énergie, sur le ministère de la transition écologique, sur le ministère de la biodiversité, etc. Le ministère des affaires sociales a la tutelle sur le ministère de la famille, celui du handicap, celui de la petite enfance, etc., 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 etc. C'est logique. Toum, 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 toum. Rien sur la hausse du SMIC alors que les salaires allemands augmentent de 20% et aux US ils prennent 40% en 4 ans. Alors la hausse du SMIC, en général, c'est au 1er juillet ou au 1er janvier que c'est effectif, donc c'est annoncé dans les mois ou les semaines précédentes. Donc c'est normal que la Première ministre ne parle pas particulièrement de salaires. D'autant que à l'issue de la réunion d'Emmanuel Macron à Saint-Cloud, on va en parler, oui, Saint-Cloud, il a été annoncé qu'une conférence sociale allait être réunie sur les bas salaires. Une conférence sociale, je vous rappelle que c'est très précis. Une conférence sociale, c'est la réunion des partenaires sociaux pour négocier dans la direction d'une augmentation des bas salaires. En l'occurrence, c'est ça que le gouvernement demande aux partenaires sociaux, de se mettre d'accord sur les modalités d'augmentation des bas salaires. Ça aussi, c'est au menu des négociations sociales pour cet automne. Ça va commencer soon. D'ailleurs, puisqu'on en parle, c'était aussi la grande nouveauté, hein. C'est quand même la grande nouveauté de cette rentrée, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a organisé un truc, mais un truc qui n'a jamais été fait de toute l'histoire de la cinquième. La conférence sociale a-t-elle des résultats imposés ou le gouvernement peut juste s'en laver les mains si rien n'en sort? En fait, c'est assez simple. Le gouvernement a toujours la possibilité de légiférer en dernier recours. Il laisse la possibilité aux partenaires sociaux de se mettre d'accord entre eux. Mais on sait que le gouvernement a la possibilité de décider lui-même à la fin. Si rien ne sort, comme tu le dis, le gouvernement prendra ses responsabilités, comme on dit, et fera passer une loi. C'est ça, le principe. Donc, charge aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le gouvernement décidera, tranchera. Et il essaye de mettre la pression aux partenaires sociaux pour qu'ils parviennent à un accord, en leur disant, bah, vous avez plutôt intérêt à vous mettre d'accord entre vous sur les modalités, parce que nous, si c'est nous qui décidons, vous n'allez pas être d'accord avec les modalités, ça ne va pas vous plaire. Voilà. Donc oui, je vous disais, Emmanuel Macron, dans son interview dans le journal Le Point, a annoncé qu'il allait prendre une initiative politique à la rentrée. Enfin non, il avait annoncé avant l'été qu'il prendrait des initiatives à la rentrée. Donc tous les gens comme moi sont partis en vacances en disant qu'est-ce qui nous prépare? Quelle va être cette initiative? Est-ce qu'il va nous dégainer un référendum, un remaniement, une dissolution? Rien du tout. On ne savait pas. Et puis finalement, dans Le Point, il a annoncé qu'il allait organiser un truc qui n'a jamais été fait. C'est une réunion de l'ensemble des chefs de partis politiques. Dans la même salle, dans la même pièce, sans journaliste, à huis clos, comme ça. Pour échanger avec eux. Emmanuel Macron, je vous le disais, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, Emmanuel Macron est un peu contraint et forcé par les Français, qui ont le sens de l'humour, d'innover politiquement. Parce que les Français ont décidé de lui confier un second mandat de président de la République, mais de ne pas lui donner de majorité. Emmanuel Macron est donc en train d'essuyer les plâtres d'une nouvelle modalité de gouvernement sous la Ve République, à laquelle on n'a jamais été confronté, qui n'est pas une cohabitation, mais qui n'est pas non plus une majorité présidentielle. C'est entre les deux. Donc le gouvernement n'a pas de majorité pour gouverner, mais l'opposition n'a pas de majorité pour renverser le gouvernement non plus. Comment on fait du coup? Eh ben on regarde dans un livre d'histoire, et qu'est-ce qu'on trouve dans un livre d'histoire? Bah rien. Ça n'a jamais existé. Donc, Emmanuel Macron tente des trucs. Il tente des trucs. Il s'était engagé l'année dernière dans une allocution à dire bon bah on va trouver des majorités de projet et on va avancer avec ceux qui veulent avancer. Il a essayé. Ça a marchouillé à la marge, on va dire ça comme ça. Donc oui, il y a eu des majorités de projet qui ont été trouvées sur certains textes de loi, pas les plus compliqués. Sur l'énergie renouvelable, sur le pouvoir d'achat, sur l'IVG dans la Constitution, ce genre de trucs. Mais pour ce qui est des grands textes, ce que j'appelle un grand texte, attention, c'est pas moi qui décide de dire si un texte est grand ou petit. Un grand texte, c'est un texte structurant dans les ambitions présidentielles de réforme. Un grand texte, c'est une grande loi sur le travail, sur l'école, sur machin, dans lequel le gouvernement et le président de la République met beaucoup de patates politique en disant c'est structurant, c'est important, c'est la promesse que j'ai faite aux Français, machin. Bah sur les grands textes, il n'y a pas eu de majorité. Il n'y a pas eu de majorité sur les budgets. Le budget, c'est le texte le plus important, je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu de majorité sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites qui était présentée par Emmanuel Macron lui-même comme un des textes les plus importants de son deuxième quinquennat. Donc Emmanuel Macron se rend bien compte que ça a des limites, son truc. Donc personne n'a de majorité à l'Assemblée. Exactement, personne n'a de majorité à l'Assemblée. Macron n'a pas de majorité, mais les oppositions non plus n'ont pas de majorité. Donc Emmanuel Macron, alors il a déjà fait un truc par le passé, mais que tous les autres présidents de la République ont déjà fait, c'est consulter à l'Élysée les chefs de parti. Voilà. C'est un truc qui se fait. Pour les grandes dates de l'actualité politique, le président de la République a la possibilité d'inviter à l'Élysée les chefs de parti à venir les uns après les autres dans son bureau, en one-to-one. pour faire un point un peu global sur un dossier particulier en disant bon, et vous, comment vous sentez les choses? Et chaque parti défile à la queue leu-leu pour aller parler à Emmanuel Macron en lui disant bon, bah voilà, nous on trouve que, nous on pense que, etc. En face-to-face, exactement. Ça existe déjà, et on va pas se mentir, c'est pas méga important. C'est pas méga important, c'est devenu un peu un passage obligé, pas ouf, où Macron il claque une demi-journée à recevoir à la queue leu-leu des chefs de parti qui viennent tous dans son bureau dire des trucs qu'Emmanuel Macron a déjà entendu 20 fois. Les chefs de parti viennent rencontrer un président de la République dont ils connaissent par cœur la politique. Personne n'apprend rien, ça emmerde tout le monde. Les journalistes sur le perron de l'Élysée qui guettent les sorties, les allers et retours des présidents des partis se font chier comme des rats morts. Et les streamers politiques, je vous en parle même pas, ils s'emmerdent. Donc cet exercice-là de recevoir à la queue leu-leu les chefs de parti, c'est Emmanuel Macron s'est dit on va pas faire ça. Il a essayé d'innover dans la forme en disant je vais les recevoir tous en même temps dans la même pièce. Et il a de fait inventé une espèce de truc. Qu'est cette rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti? Et donc, on va regarder là aussi un article du Monde. Il optimise le temps, oui, c'est vrai. On va regarder un article du Monde qui raconte un petit peu cette réunion un peu ouf, cette première. 12 heures de discussion, 12 heures de discussion, ça a fini à 3 heures du matin. De discussions à huis clos, sans caméra, sans téléphone portable entre les chefs de parti et le président de la République. De quoi ont-ils bien parlé? Quel a été le ton? Quels ont été les sujets? Etc. Déjà 2 heures de call, je suis usé à la fin. Ah ouais, putain, t'imagines? T'imagines 12 heures avec Macron? Va être crevant. Ouais, j'ai même pas compris à quoi ça a servi cette histoire. Je crois que Emmanuel Macron, il voulait faire un exercice. Bon, on va en parler, on va en parler. On va lire l'article et puis on en parle après. Alors. À l'issue des 12 heures de débat, le chef de l'État s'est engagé pour une future conférence sociale. Bon, ça, c'est le seul truc qui est nouveau. Le reste, il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant dans l'exercice. Ils se sont parlé. Contre toute attente, un dialogue courtois s'est noué entre Emmanuel Macron et ses opposants mercredi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ah, non, c'est pas à Saint-Cloud, c'est à Saint-Denis, pardon. Saint-Cloud, c'est là où Napoléon Bonaparte a fait son coup d'État. Excusez-moi, j'ai confondu sur le moment. Mais là, ce n'était pas le sujet. Donnant lieu à pas moins de 12 heures d'échange, il aura fallu le cadre austère de l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, la confiscation des téléphones portables, remisés dans une boîte à l'entrée de la salle, l'exclusion de tout collaborateur, même le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, dont la présence silencieuse avait un temps été envisagée, a dû rester à l'Élysée, et de toute presse pour que la confiance s'instaure. Macron a réussi à minima ça, c'est à créer un contexte de discussion courtoise avec ses opposants, la condition étant pas de téléphone portable, pas de collaborateurs, même Alexis Kohler, il reste à l'Élysée, pas de journaliste. On est entre nous, à huis clos, ferme les écoutilles. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Ainsi, les quatre représentants de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, putain, ils ont pas mis écologique. Oh là là, le Monde! Vous avez pas mis écologique dans la NUPES, ça va gueuler, hein. Oh, ça va gueuler. Donc, les quatre représentants, Manuel Bompard pour LFI, Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Fabien Roussel pour le Parti Communiste et Marine Tondelier pour les Écolos, menaçaient-ils la veille de boycotter le dîner pour ne pas donner l'impression de pactiser avec Éric Ciotti ou Jordan Bardella? Ils sont finalement restés jusqu'au bout de ce happening inédit orchestré par le chef de l'État. 3h14, levée d'écrou, écrit au Monde, au cœur de la nuit, un participant soulagé de retrouver l'air libre. Il décrit un Macron qui aurait pu continuer jusqu'à 6h du matin. C'est une machine de guerre. Ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est connu pour ça. Apparemment, Macron, quand il se lance, tu l'arrêtes pas. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, personne n'était surpris. Dans la salle, il le connaissait bien. Côté exécutif, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, redoutait mardi soir, lors du dîner des ténors de la majorité à l'Élysée, une sortie fracassante de LFI avant la fin, et préconisait de prévoir une riposte dans les médias. Cela n'aura finalement pas été nécessaire. Les oppositions de gauche, arrivées en groupe peu avant 15h, se disaient sans illusion avant de pénétrer dans l'enceinte de l'abbaye, devenue la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Marine Tondelier, la chef de file des Verts, citait de précédentes initiatives prises par le président de la République, comme le grand débat organisé après la crise des Gilets jaunes, les cahiers de doléances qui ont croupi dans les sous-sols des préfectures, ou encore la Convention citoyenne pour le climat, qui a engendré, selon elle, une grosse déception. Olivier Faure n'était pas le dernier à mettre en garde contre cette opération de communication, mais se montrait soucieux d'afficher une attitude constructive. À chaque fois qu'il est possible de venir apporter des propositions concrètes, nous le faisons, assurait-il. Ça, c'est une question intéressante d'ailleurs. Comment s'opposer à un président quand on est un chef de parti d'opposition? Est-ce qu'il faut boycotter la réunion au risque que l'opinion publique dise, bah dis donc, vous êtes chiant quand même. On vous propose de venir discuter. Vous êtes opposant, vous êtes là pour vous opposer. Vous n'êtes pas là pour faire la tronche. La politique de la chaise vide, c'est pas ce qu'on vous demande. Est-ce qu'il faut y aller, mais se barrer en cours de truc, en claquant la porte, en disant niquez-vous, c'est de la merde, etc. Au risque de passer pour le perturbateur qui refuse le dialogue, etc. C'est pas facile hein, pour les chefs d'opposition. Donc du coup, bon, visiblement, ils ont décidé d'y aller en jouant le jeu, mais en montrant clairement aux journalistes qui leur posaient des questions avant qu'ils y allaient dans un état d'esprit de, pff, écoutez, c'est, de toute façon, c'est un truc de com' là. On est sans illusion, sans attente non plus. Faut pas, voilà. Merci William pour ton resub. Déjà que la NUPES a une sale image dans l'hémicycle, ça aurait été compliqué de ne pas y aller. Oui, c'est non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Mais on en a déjà parlé mille fois sur cette chaîne. Putain, abonnez-vous, elle est extraordinaire cette chaîne. Non, non, on en a déjà parlé mille fois de quelle est la bonne stratégie d'opposition à l'Assemblée. Est-ce que crier, faire du bruit et faire du bazar et du brouhaha, c'est une bonne manière de s'opposer? C'est à double tranchant. Bah pareil. Est-ce que refuser la main tendue du dialogue, c'est une bonne manière de s'opposer? En tout cas, pour l'instant, les opposants ont décidé de pas jouer cette carte-là. Le dialogue n'est pas rompu, on peut discuter, mais on peut y aller aussi en disant de toute façon, je voilà. Hop. Les petites combinaisons ou les plans de com ne seraient pas à la hauteur de la situation, prévenait de son côté le patron du parti LR, Éric Ciotti, arrivé en retard à cause des embouteillages. Ah! Pécresse démission? Non, quand même pas, Éric. Le président du RN, Jordan Bardella, assurait quant à lui, en arrivant dans le lycée où il a passé son bac, qu'il ne servirait pas de béquille au chef de l'État, mais qu'il se ferait l'écho des millions de Français qui veulent qu'une autre politique soit menée, notamment sur la sécurité et le pouvoir d'achat. Les chefs des partis de la majorité, Stéphane Séjourné, Renaissance, Édouard Philippe, Horizon, François Bayrou, Modem, ne se sont en revanche pas montrés avant la réunion. Oui, bon, c'était pas la peine de fanfaronner, ils sont de la majorité, si tu veux qu'ils disent. Il y a quand même une différence de traitement de l'opposition par Macron entre les différents partis de la NUPES. Raison pour laquelle la NUPES y est allée unie. Et à mon avis, ils étaient malins. Parce que je reviens à ce que je disais sur comment bien s'opposer dans ce genre de réunion, etc. Si la NUPES y était allée en ordre dispersé, tout le monde aurait analysé ça comme ah, hé, eh ben vous voyez, eh ben ils sont pas d'accord entre eux, la gauche. Sauf qu'ils ont décidé de dire ah ouais, tu veux jouer à ça, ben on va y aller ensemble. On va arriver les quatre en même temps. Évidemment, c'est du symbole. Évidemment que c'est purement symbolique, le fait d'arriver physiquement avec les quatre chefs de parti côte à côte, etc. Mais c'est un symbole qui politiquement dit une volonté des partis de la NUPES de dire à Macron, joue pas la division entre nous. Essaye pas de jouer les communistes contre les insoumis, machin. T'inquiète, les militants de gauche s'en sortent très bien sur Twitter pour s'engueuler. Pas besoin de nous la jouer. Nous, on est unis pour s'opposer à ta politique, etc. Merci Casual Babou et merci Alghost pour vos abonnements. Donc voilà. J'en étais où? Aux alentours de l'école, donc c'était dans une école, hein, l'ancienne abbaye de Saint-Denis, aux alentours de l'école, les terrasses de la rue de la Boulangerie, bien connues des habitants de Saint-Denis, donneraient encore une impression de vacances ce mercredi après-midi. Malgré l'important dispositif de sécurité, l'ambiance était détendue. Des gendarmes échangeaient quelques passes de football avec les enfants du quartier. Un passant intrigué se demandait ce que le président pouvait bien faire dans ce lycée encore fermé, ne soupçonnant pas que se jouait là-bas, chez lui, une réunion au sommet. Longtemps, aucune information n'a filtré de ce huis clos inédit. Pendant 4 heures, entre les murs du cloître, est évoquée la situation internationale. Emmanuel Macron, rompu à l'exercice, parle longuement de l'Afrique, de l'Ukraine, du Maghreb et de l'Europe, du bassin méditerranéen, de la relation avec l'Allemagne, qui propose un tour de table. Puis propose un tour de table. Les 11 chefs de parti interviennent sans limite de temps, de quoi expliquer la longueur des échanges. Un large consensus se manifeste sur la politique de la France en Ukraine. L'Élysée ne manquera pas de souligner à l'issue du conclave le soutien unanime de la classe politique à cette politique, critiquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Putain, c'est vrai ça. Sarko qui fait le mariole dans les médias en disant que c'est tout pourri la politique de la France en Ukraine. Bah oui, mais il est un peu tout seul parce que tous les autres autour de la table, ils étaient d'accord pour dire bah ouais, il faut soutenir les Ukrainiens, ouais, il faut envoyer des armes, ouais, il faut se montrer ferme face à Poutine, ouais, il faut jouer l'unité européenne et tout. Intéressant. L'Élysée ne manquera pas de souligner, machin, 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 machin. Emmanuel Macron a pris acte qu'il n'y avait pas de pro-russe autour de la table, qu'aucune formation n'approuvait l'intervention russe en Ukraine, souligne auprès du Monde Manuel Bompard, en référence aux accusations portées contre la France insoumise sur les rapports, sur ses rapports à la Russie. Une remarque qui vaut aussi pour le RN. Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, c'est gentil pour LFI, mais en fait, regardez plutôt de l'autre côté du spectre. Effectivement, ça vaut aussi pour le RN, dont la candidate à la dernière présidentielle, Marine Le Pen, était pourtant accusée en avril 2022 par Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux tours de dépendre du pouvoir russe et de Monsieur Poutine. Ah oui, mais enfin, bon, Marine Le Pen, elle a voté contre les sanctions. Elle s'est opposée aux sanctions contre Poutine en même temps. Quand même dur. À 19h30, une première pause est décrétée, histoire de se dégourdir les jambes. Puis Emmanuel Macron propose d'évoquer, avant le dîner, les institutions et les territoires. La première ministre, Elisabeth Borne, est chargée d'introduire les sujets. Après le consensus sur l'international, le clivage gauche-droite, droite-gauche, ressurgit sur les questions intérieures. Ah, intéressant. Monsieur Bompard dégaine sa proposition de référendum sur les retraites. Eh oui, le référendum sur les retraites, le RIP qui n'a pas pu avoir lieu, etc. Emmanuel Macron lui répond en substance qu'on ne peut pas opposer la légitimité du Parlement à celle du référendum. Si. Bah si. si. On peut complètement. Fabien Roussel confie qu'il a encore le 49-3 en travers de la gorge. Eh oui. Que l'épisode fut violent pour les parlementaires. 149-3, la CSG n'aurait pas pu exister, lui rappelle le chef de l'État, faisant allusion à l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Oui, elle est facile celle-là, de toujours se planquer derrière Rocard quand il s'agit de, quand il s'agit de parler de 49-3. C'est plus subtil que ça, comme l'a très bien expliqué longuement le streamer politique Jean Massier, abonnez-vous. Crayon en main, Emmanuel Macron écoute, prend des notes. Il n'a aucun greffier dans la salle, ni de salle d'écoute. Alors, une salle d'écoute, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors ça, c'était un peu par le passé. C'était à l'époque 3e, 4e République, où dans une salle à côté de la salle où a lieu la réunion, il y a des fonctionnaires et des collaborateurs qui ont des écouteurs et écoutent ce qui se dit à l'intérieur en prenant des notes. Voilà, c'est ça, une salle d'écoute. Il y a même eu, à une époque, un truc qui existait beaucoup sous la 4e République, s'appelait le perroquet. Le perroquet, c'était des câbles téléphoniques qui partaient de l'Assemblée nationale, qui était en souterrain dans Paris et qui allait jusqu'au ministère et qui servait au cabinet des ministres à écouter les débats parlementaires. Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Ils écoutaient les débats parlementaires parce qu'il y avait un micro dans l'hémicycle et ils travaillaient. Ils prenaient des notes. En urgence, ils faisaient des amendements. Ils calculaient des trucs, etc. Machin. Fin de l'anecdote. On reprend. Donc là, il n'y avait pas de salle d'écoute. Hein, c'était vraiment, ils ont vraiment joué le jeu du huis clos. Il n'y a pas de micro, pas de salle d'écoute, pas de collaborateurs, etc. Au lieu de repousser les propositions, il commente, problématise les questions, explique la marche du monde. Éric Ciotti, Jordan Bardella et Édouard Philippe remettent en cause la règle du non-cumul des mandats. Le maire du Havre estime, au passage, que la transparence exigée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique va trop loin. François Bayrou, lui, aurait aimé que sa banque de la démocratie, promise par Emmanuel Macron en 2007, voie le jour. Et il a raison. Marine Tondelier regrettera le petit côté don't look up de la réunion où ne seront jamais évoquées les thématiques environnementales malgré ses tentatives. C'est ce qu'a dit Marine Tondelier en sortant de la réunion, visiblement. Elle a dit « On pourrait parler climat à un moment, s'il vous plaît. » J'ai l'impression que là, tout le monde a l'air bien parti pour pas parler du tout du sujet. C'est normal, c'est la chef des écolos. Éric Ciotti, Jordan Bardella, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, visiblement, tape à bras raccourcis sur un des héritages du quinquennat de François Hollande, qu'est la loi de transparence de la vie publique, la loi pour la transparence de la vie publique, qui a donné naissance à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, cette fameuse Haute Autorité devant laquelle il faut faire des déclarations de conflit d'intérêts, des déclarations de patrimoine, qui casse les couilles aux élus, etc. Machin, ça les énerve. Deuxième truc, héritage de François Hollande qui énerve Éric Ciotti, Jordan Bardella et Édouard Philippe, c'est la loi sur le cumul des mandats. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, jusqu'en 2014, il était possible de cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat exécutif local. Qu'est-ce qu'un mandat de parlementaire ? C'est député ou sénateur, ça vous le connaissez. Qu'est-ce qu'un mandat exécutif local ? C'est soit maire, soit adjoint au maire, soit président ou vice-président de conseil départemental ou régional. François Hollande, c'était une de ses promesses de campagne de 2012, a fait voter une loi interdisant de cumuler les mandats, qui fait qu'aujourd'hui il n'est plus possible d'être maire et député. Ou d'être maire et sénateur, ou d'être président de conseil départemental et député, ou sénateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. La Banque de la démocratie, promise par Macron en 2017, c'était effectivement une proposition de François Bayrou. François Bayrou, président du Modem, dans son package de 2017 pour apporter son soutien à la présidentielle au jeune Emmanuel Macron, François Bayrou était venu avec un paquet de proposition du MoDem en disant il faut que ça ce soit dans le programme du candidat Macron, c'est la condition pour qu'on soutienne. La Banque de la démocratie faisait partie de ces propositions, et l'idée de François Bayrou, c'était de dire il faut qu'on remette à plat le modèle de financement politique dans ce pays, notamment de financement des partis politiques, et qu'on ait affaire à plus de transparence. C'est pas normal de ce que disait François Bayrou, c'est pas normal de laisser les candidats et les partis politiques se démerder avec des prêts dans des banques privées qui donnent ou pas les prêts selon la gueule du client, la couleur de la politique, etc. Il faut qu'on crée une banque publique, peut-être sous égide de la Caisse des dépôts par exemple, peu importe, gérée objectivement, démocratiquement, on s'emmerde, on s'en fout, on met tous les garde-fous qu'il faut, peu importe, de manière à rendre sain le financement de la vie politique, le financement des partis, les prêts aux candidats qui veulent se présenter aux élections, le financement des chaînes Twitch intéressantes, etc. Non, je déconne. Mais bref, il avait eu cette idée-là, Macron avait dit « Ouais, très bonne idée, je le mets dans mon programme ». Bon, finalement, il l'avait jamais fait. C'est quoi le sujet? Alors pour ceux qui débarquent, on est en train de lire un article sur la réunion de 12 heures entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques de France qui a eu lieu il y a 5 jours, mercredi dernier. Bref, donc tour de table, les députés, enfin les chefs de parti papotent, ressortent des idées qu'ils aimeraient bien. L'écolo, Marine Tondelier, dit on pourrait parler d'écologie s'il vous plaît. François Bayrou dit elle était quand même vachement bien mon idée en 2017 de faire une banque de la démocratie, vous êtes chiant à pas l'avoir fait. Ciotti, Bardella, Édouard Philippe disent quand même la loi sur le cumul des mandats c'est de la merde, il faudrait qu'on puisse cumuler, ce serait mieux pour la représentation des territoires, etc. Lorsqu'Éric Ciotti et Jordan Bardella posent sur la table la question de l'immigration, Emmanuel Macron propose de faire vivre le débat. Le chef de file du PS, Olivier Faure, nantera une compétition entre les deux chefs de parti, le premier portant un référendum sur l'immigration, le second, tout à son souci de banalisation, allant piocher chez Nicolas Sarkozy l'idée du conseiller territorial, siégeant à la fois au conseil départemental et au conseil régional. Oh putain, c'est vrai. C'est vrai que le RN a repris cette idée-là de Sarko, de créer le conseiller territorial. Sarko avait voté ce truc-là en 2010, 2011. Et ça avait été dégagé par les socialistes quand ils sont arrivés au pouvoir en 2012. Ouais. Et depuis, le RN a dit c'est une vachement bonne idée, on va supprimer le conseiller départemental, on va supprimer le conseiller régional et on va créer le conseiller territorial qui siégera à la fois dans l'un et dans l'autre. Et c'était ça l'idée de Sarko qu'il avait fait voter, etc. Machin. Bref, donc, Éric Ciotti et Jordan Bardella se sont donné la courte échelle mutuellement pour parler d'immigration et de faire une courte échelle à... à l'un et à l'autre, d'accord. Sur l'immigration, à messieurs Ciotti et Bardella, qui militent tous les deux pour un référendum sur l'immigration, Emmanuel Macron propose d'engager un travail sur le champ de l'article 11 de la Constitution qui régit les référendums limités aux questions d'organisation des pouvoirs publics et aux réformes relatives aux questions économiques, sociales et environnementales. Emmanuel Macron semble ouvrir la possibilité à un référendum sur l'immigration. En tout cas, il veut qu'une réflexion soit menée sur le champ d'application de l'article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité de faire des référendums, mais c'est pas sûr qu'un référendum sur l'immigration ça rentre là-dedans. Il sait très bien que non. Bah, en tout cas, il laisse la porte ouverte à la possibilité que oui. Love in De Gaulle. Oui, mais De Gaulle, c'est pas pareil. Voilà. Résultat de 70 ans de 5e République, De Gaulle, c'est pas pareil. Voilà. Au passage, le chef de l'État, détendu, rit ouvertement devant les opposants. Au passage, le chef de l'État détendu rit ouvertement devant ses opposants de l'idée lancée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lundi, de recourir à un préférendum, notion jusqu'ici inconnue. Il se dit surpris de la sortie du porte-parole du gouvernement, comme si elle avait été portée sans son aval, s'étonneront plusieurs participants. Il paraît, effectivement, j'avais lu ça je sais pas où, que Marine Tondelier, je crois, a dit à Emmanuel Macron « On n'a rien compris à votre idée de préférendum », et Macron lui aurait répondu du tac au tac « Ouais, non, moi non plus, j'ai rien compris ». Donc Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs chargé du renouveau démocratique, ou de l'innovation démocratique, je sais plus, a dit que la porte était ouverte à un préférendum, et visiblement personne n'a compris. Il n'y a que Olivier Véran qui a l'air d'avoir compris, et même lui, je pense que le soir, il dort pas très bien parce qu'il sait pas très bien de quoi il parle. Référendum, pour ceux qui savent pas ce que c'est une idée qui n'a jamais été appliquée, qui n'existe pas dans la loi aujourd'hui, qui est une idée portée par des militants, par des chercheurs, par des activistes, etc., qui propose d'innover en matière de référendum pour ne plus faire des questions oui ou non, comme ça existe aujourd'hui, de faire mais plutôt de faire des trucs à des questions à choix multiples. Des préférences, plutôt que de dire si vous êtes pour ou contre une loi, vous émettez une préférence en faveur de plusieurs options ou de plusieurs jugements possibles. C'est pas comme la primaire populaire. Si la primaire populaire, c'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire, c'est encore une autre technique, mais c'est assez proche effectivement, où plutôt que de voter pour un candidat, tu juges chacun des candidats et tu donnes un jugement de 1 à 5 étoiles. Voilà. Et ensuite, il y a des modalités qui peuvent être discutées pour savoir comment est-ce qu'on finit par trancher. Bon, bref. Donc, cette idée de référendum a été émise par le porte-parole du gouvernement. Et visiblement, Macron lui-même a reconnu que c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais en fait, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Ça me semble pas être une mauvaise idée, si. Ah, moi non plus, moi je trouve même plutôt que c'est plutôt une bonne idée. Mais qu'il faut réfléchir aux modalités, etc. Machin, mais que. Enfin, moi, vous savez, vous me connaissez, je suis plutôt un. Favorable à tout ce qui va dans le sens de l'innovation en matière de démocratie. C'est un truc nouveau, on l'a jamais fait, pourquoi pas? Moi, je suis pas fermé à l'idée, faut juste discuter des modalités d'application. Voilà. On continue. Le fameux dîner auquel la NUPES ne voulait pas participer dans un premier temps est servi à 21h45 dans la bibliothèque. Saumon, pintade, champignons, fruits rouges, rien qui puisse heurter. Finalement, les consciences. Ni empêcher la poursuite des discussions. Bon, il n'y a pas eu de quinoa, il n'y a pas eu d'entrecôte, il n'y a pas eu de couscous. Ah. Ils ont fait le repas le plus neutre possible. Est-ce qu'il y avait un apéro au moins avant? C'est vrai ça? Est-ce qu'il y avait un petit ballon de rouge avant? Bonne question. Il n'y avait pas de tacos trois viandes non plus. Non, non, non. Pas de homard, pas de tacos. Pas de champagne, pas de petit four, pas de galettes de saucisses. Voilà. La dernière partie sur le Faire Nation s'étire. La question sociale n'est arrivée qu'à 2h du matin, regrette Fabien Roussel auprès du Monde. Et encore, parce qu'on a mis les pieds dans le plat. Faire Nation n'avait été abordé que sous l'angle de Naël. Lorsque la question des bas salaires est abordée, Emmanuel Macron évoque ce qui restera le seul engagement concret, l'organisation d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du SMIC. Les responsables de gauche notent cependant que le président n'exclut pas la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Comme si Emmanuel Macron voulait contenter tout le monde, il contente la gauche en ouvrant un dialogue social, une conférence sociale sur les bas salaires, et il contente la droite en disant ouais, on pourra supprimer les allocs pour les parents d'enfants délinquants. C'est très macronien finalement, c'est dû en même temps. Jordan Bardella, qui échangeait pour la première fois avec le président, mercredi, sort à son tour. Il se réjouit d'un débat franc, mais à l'avenir, selon lui, incertain. Quand vous êtes à huis clos et que les caméras ne sont pas là, vous avez eu un langage un peu particulier, un peu plus franc. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, explique-t-il aux quelques journalistes présents. À savoir qu'il fallait peut-être aimer davantage le peuple français avec qui il s'est créé un fossé. Durant la réforme des retraites. La seule preuve d'amour à ses yeux serait de lui redonner la parole, prioritairement par un référendum sur l'immigration. Évidemment, le RN milite pour un référendum sur l'immigration, on a compris. Idée sur laquelle Emmanuel Macron n'a pas rebondi, regrette-t-il. Moi, j'ai noté qu'il n'avait pas fermé la porte complètement. Mais encore une fois, j'étais pas à la réunion. C'est con d'ailleurs, ouais, l'Élysée la prochaine fois. Vous pouvez me. Moi, je me mets discrètement dans un coin. Je parle pas, hein. Je me mets dans un coin, tranquille. J'écoute. Et voilà. À bon entendeur. Olivier Faure, lui, ressort avec 30 pages de notes. Il a eu l'impression, tout au long de cette journée de palabres, d'une porte ouverte aux propositions des Républicains et des droites dans leur diversité, confie-t-il au Monde. À l'exception de la conférence sur les salaires, le patron du PS juge que c'était flou en arrivant, c'est toujours flou en repartant. Et trouve finalement que cet exercice de communication a beaucoup rassemblé au Conseil national de la refondation, au grand débat ou à la Convention citoyenne. Comme une illustration de l'état des relations actuelles au sein de la NUPES, Olivier Faure, Marine Tondelier et Emmanuel Bompard repartent ensemble. De Saint-Denis. Au cœur de la nuit, Fabien Roussel s'est lui évaporé. Il avait une matinale, l'excuse Manuel Bompard. Il fait la gueule, hein, Fabien Roussel. Hein. Il n'a pas envie d'être sur la photo avec les autres de la NUPES, sachant que les relations entre eux sont très irritées. Donc il a bien voulu jouer le jeu à l'arrivée, mais à la ressortie, il est parti tout seul. Le dirigeant de LFI regrette, lui aussi, donc Manuel Bompard, dirigeant de la France Insoumise, regrette lui aussi que la question du pouvoir d'achat soit arrivée tard, après 10 heures de discussion. J'ai trouvé ça lunaire et hors sol. On est entré sur la vie concrète des Français. Il était minuit passé, retrace-t-il. Il regrette d'avoir vu l'ensemble de ses propositions balayées d'un revers de main et note que le président a semblé avoir une oreille bien plus bienveillante à l'égard du RN et de LR que de la gauche. Donc, hein, en même temps, pas si en même temps que ça. En termes de moralité, si demain un référendum entraîne un choix anticonstitutionnel, que se passe-t-il? Le peuple a-t-il toujours raison? C'est une excellente question à laquelle les chercheurs en droit international public continuent à s'arracher les cheveux. La protection internationale des droits de l'homme doit-elle laisser le pas sur la souveraineté des peuples? Vous avez 20 heures devant vous. Ça pour te dire, j'ai pas la réponse, c'est une question philosophique à laquelle je t'invite à réfléchir parce qu'elle est fascinante. Sur le flanc droit, Hervé Marseille, président de l'UDI, juge l'exercice innovant et assez positif. Le climat était détendu, respectueux, libre et tout le monde est resté. Éric Ciotti qualifie la méthode d'opportune sur France 2 jeudi, mais avoue une forme de scepticisme. J'espère que ça ne sera pas qu'un exercice de communication. Quelle suite Emmanuel Macron donnera-t-il à cet exercice inédit? Son entourage, qui n'a pas davantage assisté aux échanges que les journalistes, évoquait au cours d'un brief nocturne un grand moment de politique. 12 heures fructueuses de conversations apaisées et franches, sans rechercher de faux compromis. Le président fera parvenir aux participants dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les pistes de travail abordées, que chacun pourra amender pour poursuivre les échanges sur cette base. Si la conférence sociale évoquée par Emmanuel Macron est un engagement, il n'y a pas eu, par contre, concernant un référendum sur une thématique ou autre, précise l'Élysée. Oui, c'est ça. Le seul engagement, c'est la conférence sociale. En revanche, il n'y a pas d'engagement sur un référendum. Macron a pris des notes. L'ensemble des participants sont en tout cas convenus de se revoir. Dans le même format et dans les mêmes conditions pour une prochaine session de travail, mais pas forcément aussi longuement. Voilà donc pour le compte-rendu du journal Le Monde de cet exercice inédit. Intéressant. Intéressant comme exercice. Est-ce que ce n'était qu'un exercice de communication? Est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu simplement se présenter en chef au-dessus des partis, etc.? Non, parce que s'il était vraiment au-dessus des partis, il ferait comme De Gaulle et il mépriserait les partis. Il ne parlerait qu'au peuple et au Parlement. Non, Macron a l'air de concevoir le fait qu'il y a des forces politiques dans ce pays, qu'on ne peut pas les mépriser comme ça et les rebalancer d'un revers de main. Donc il n'est pas au-dessus des partis puisqu'il les invite à discuter. Je rappelle qu'en droit constitutionnel, un parti politique n'a aucun pouvoir, n'a aucune représentativité. Forces politiques n'ont que le pouvoir de présenter des candidats. Il n'y a qu'un Parlement, il y a un peuple souverain, un Parlement qui les représente. Un président de la République, clé de voûte des institutions, un parti politique, ça n'existe pas. De Gaulle, il n'aurait jamais réuni les chefs de partis politiques. Et au contraire. Pour leur mettre des tartes dans la gueule, éventuellement, il l'aurait fait. En même temps, je me dis qu'Emmanuel Macron, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 6 ans maintenant qu'il est président de la République, Emmanuel Macron. Commence à le connaître un peu. Emmanuel Macron, il adore ces exercices-là, ces grandes réunions, les grands débats nationaux, conventions citoyennes pour le climat, les moments où il parle, le conseil de la refondation, ce genre de trucs. Il adore ces exercices où ça phosphore tous ensemble, d'où ressort pas grand-chose, ou alors une mollesse un peu philosophico-pratique, mais pas très pratique, mais un peu quand même. C'est un peu son truc à Macron. C'est vraiment la marque de sa présidence, d'ailleurs. Démagogie? Bah non, c'est pas de la démagogie, parce que la démagogie, c'est dire au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Je suis pas sûr que le peuple, il réclame une réunion entre les chefs de parti. Hein. On a rien à foutre, le peuple. Non, disons qu'Emmanuel Macron, il voit les avantages que ses opposants considèrent comme des inconvénients, quoi. Macron, il a dû effectivement, comme le dit le journal Le Monde à la fin de son article, il a dû se coucher après à 4 heures du matin, il a dû se coucher en se disant, putain, c'était une super réunion, on a parlé 12 heures, c'était franc, c'était concret, c'était cash, on se disait les choses, enfin on se pose les mots, enfin on crée les conditions d'un débat, non, la France n'est pas fracturée au point de ne pas pouvoir s'adresser la parole, etc. Voilà. Et les opposants, le soir dans leur lit, Manuel Bompard dans son lit, ils se disaient... Encore de la com macroniste, on a palabré pendant 12 heures, il n'y a rien de concret, ça phosphore pendant des heures sur les territoires, la nation, machin. Et pendant ce temps-là, les pauvres, ils sont toujours aussi pauvres, il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'engagement, etc. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me dis que tout le monde ressort de ce truc sans trop savoir à quoi on a assisté. Ceux qui étaient partis pour être convaincus, bah, sont toujours convaincus. Ceux qui étaient partis pour être déçus, bah, ils sont déçus. Pas de surprise sous le soleil. Voilà. Chou blanc donc. Ça aurait beau être un beau travail intellectuel, c'est ce qui va en découler concrètement rien. Honnêtement, moi je fais partie des gens qui reconnaissent que en politique, tout n'a pas vocation à être concret en permanence. Le fait qu'il y ait des temps, des moments, un peu suspendus. Je vous ai parlé des universités d'été, des partis politiques, par exemple. Le fait qu'il y ait une vie, un débat public, citoyen, médiatique, qu'il y ait une vie intellectuelle, qu'il y ait des artistes qui se mobilisent, etc. Tout ça participe de l'environnement démocratique. Le fait que le président de la République réunisse les chefs de parti pour un échange sans caméra, sans micro, sans collaborateur et tout, moi, j'y suis pas du tout opposé. C'est très bien. Il faut juste que tout le monde essaye d'être le plus précis possible sur ce que c'est que ce truc. Et ce que ça n'est pas. Plutôt sur ce que ça n'est pas. Il faut que Macron soit clair sur à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Et il faut que les opposants soient clairs sur ce qu'ils en attendent et ce qu'ils n'en attendent pas. Et il faut que nous, toi qui es en train de te curer le nez, et moi, on soit aussi lucide sur le fait que ça peut pas être une révolution. Hein. C'est juste une fucking réunion. Voilà. Et il ne faut pas attendre de cette réunion la fumée blanche d'un consensus national, d'un référendum. Non, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'instant, ce n'est pas l'utilité. Ce n'est pas la peine de s'exciter et de s'emballer en attendant de ce truc une révolution. Il n'y aura pas de révolution. Pas comme ça, pas de cette manière-là et tout. Donc, est-ce que c'est inutile? Non. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour le reste, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, je déconne. Perso, de toutes les forces politiques se parlent en même temps sans médias, je trouve ça intrinsèquement bien. Ça n'a pas vocation à être utile, mais ça pose les choses. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, ça n'a pas vocation à être utile. C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est que ça n'a pas vocation à être utile au sens où on parle d'utilité, d'efficacité et d'efficience. C'est-à-dire que non, de cette réunion ne peut pas sortir un décret, une proposition de loi, un programme. Non, ça ne peut pas. Il y a un conseil des ministres qui gouverne ce pays. Enfin, voilà, c'est... En termes de communication, c'est habile. Je sais pas. Je sais pas si en termes de communication c'est habile. Pour une raison très simple. De vous à moi. De vous à moi. Qui était au courant de ce truc? Tu crois vraiment que les électeurs... Mercredi dernier, ils se sont dit... Ah tiens, c'est aujourd'hui la réunion des chefs de parti? Non. Enfin, tu vois, c'est... Un peu comme le Conseil national de la refondation, tu vois. C'est pas. Voilà, c'est ceux qui sont attentifs. Voilà, et ceux qui sont attentifs, comme par hasard, c'est ceux qui n'ont pas besoin de convaincre. Donc, oui, bon. Le petit landerneau politique, moi y compris, on était au courant. Mais bon. Bah, je sais pas, demandez à vos parents, demandez à vos proches. Ils étaient au courant, eux, que mercredi, il y avait une réunion des chefs de parti pour la première fois de l'histoire de France? Non. Donc, tu veux, ouais, pareil, tu vois, on dit exercice de com. Bah non, c'est pas un exercice de com. Si tu veux un exercice de com, Macron, il fait des allocutions télévisées, il fait des conférences de presse. Ça, c'est des exercices de communication. Il fait des séquences de com, des déplacements en mini. Ça, c'est des séquences de communication. Ça, c'était pas un exercice de com, puisque il y a pas de caméra. Il est passé chez Hugo Décrypte. Ah, bah ça, voilà. Et accorder une interview à un journaliste, à un journal, à une chaîne de télévision ou à un youtubeur, c'est un exercice de communication. Et encore une fois, c'est pas sale la communication en politique. C'est pas grave. C'est pas. Les politiques ont le droit de répondre à des interviews. Faut pas y voir toujours. C'est bien de communiquer en politique. Merci Jeannot pour ton resub. Pour ton abonnement, pardon. Merci Luapage pour ton abonnement. C'est pas caca? Eh ben non, c'est pas caca. Il n'y avait pas eu une sortie de Macron sur le quinquennat pendant cette réunion, au fait, je croyais avoir vu passer ça. Si, alors moi je suis comme toi, je suis surpris de ne pas l'avoir retrouvé dans l'article du Monde, mais effectivement j'ai lu que Emmanuel Macron, au cours de cette réunion, aurait dit que la limitation du nombre de quinquennats du président de la République à deux quinquennats successifs était une funeste connerie. Je cite le président de la République. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui l'ont oublié, que un président de la République française ne peut pas cumuler plus de deux mandats successifs. Autrement dit, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, merci Grink.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat, merci à toi. Donc, pas plus de deux mandats consécutifs, c'est dans la Constitution que depuis 15 ans. C'est nouveau ce truc-là. Avant, il n'y avait pas de limite de nombre de mandats. Emmanuel Macron aurait déclaré au cours de cette réunion que l'un des défauts de cette règle, qui fait qu'un président de la République ne peut pas se représenter, c'est qu'on est effectivement, il n'a pas complètement tort, on est dans une situation baroque. C'est qu'on a un président de la République qui n'est responsable politiquement devant personne d'autre que le peuple français, conformément à la volonté du général de Gaulle, sauf qu'il n'est même plus responsable devant le peuple français puisqu'il ne peut plus se présenter devant lui. Donc, il ne peut pas y avoir la sanction des urnes. Pas 15 ans, 23 ans, c'était sous Chirac. Non, tu confonds avec le quinquennat, qui a remplacé le septennat. Ça, c'était en l'an 2000. Et la réforme de 2008 est venue limiter le nombre de mandats du président de la République. Donc, depuis 2008, un président ne peut pas faire plus de mandats successifs. Problème, s'il est en cours de deuxième mandat, eh ben, il ne peut pas être jugé par le peuple français, puisqu'il ne peut pas se présenter devant lui. Donc politiquement, c'est quand même bizarre, pour quelqu'un qui tient sa légitimité du peuple français. Autre problème, qu'aurait souligné Emmanuel Macron, c'est que ça ouvre la porte à la guerre de succession. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ça ouvre la porte à la guerre de succession. Bon, est-ce que ça empêche le pays d'avancer? Moi, j'ai pas l'impression. Merci Graine de Courge pour ton sub. Merci beaucoup. Grosso merdo, il s'en fout pas mal du ressenti du peuple. Bah, c'est-à-dire que quand bien même il s'en foutrait pas, il aurait pas trop moyen de lui demander. Ou alors il fait des référendums, c'est l'autre manière de faire. Sauf que du coup, s'il fait ça, on se retombe dans une logique plébiscitaire du référendum. Et c'est justement ce que tout le monde essaye un peu d'éviter, le caractère plébiscitaire des référendums. C'est ça le truc. C'est que c'est un des trucs qui est reproché au référendum, et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de référendum dans ce pays depuis bientôt 20 ans. C'est que quand on pose une question aux Français, les Français peuvent avoir tendance à ne pas répondre à la question qui est posée, mais plutôt à valider ou pas la politique menée par le président de la République. C'est le principe plébiscitaire du référendum qui avait été. C'était un usage référendaire utilisé par le général de Gaulle, qui en faisait justement effectivement un élément d'utilité. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même dommage de passer à côté du sens de la question. D'où l'idée de faire des préférendums, d'où l'idée de faire des référendums qui ne seraient pas à l'initiative du président de la République mais du Parlement, d'où l'idée de. Enfin bref. D'où l'idée d'essayer d'innover un peu de manière à repermettre la participation citoyenne via des référendums, tout en essayant d'éviter le mauvais usage du référendum, c'est-à-dire l'usage plébiscitaire. Merci beaucoup Moustix pour tes 5 subs!
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires.
Ça veut dire quoi ton mot plébiscitaire? Un plébiscite, c'est. Alors, un plébiscite, historiquement, je ne veux pas dire de bêtises, il y a des historiens dans le chat, est-ce que ça ne remonte pas à la Rome antique? Ce qu'on appelait un plébiscite, c'était une élection par acclamation. En gros, un chef militaire qui avait gagné une campagne militaire à l'autre bout de l'Europe, il rentrait à Rome. Avec des tambours, des trompettes, des pétales, il rentrait en triomphe et la plèbe, donc le peuple romain, l'acclamait et c'était un plébiscite, qui était une forme de désignation de c'est qui le chef. Voilà, c'est ça un plébiscite. Et donc le caractère plébiscitaire d'un référendum, c'est un président de la République qui fait un référendum pour demander au peuple non pas de répondre à la question qui est posée sur le référendum, mais en fait de dire êtes-vous d'accord avec ma politique ou pas? Si tu votes oui au référendum, c'est que tu votes pour le président. Si tu votes non, c'est que tu es contre le président. Voilà. C'est un peu comme si on votait pour le président à l'applaudimètre, si vous voulez. Oui, c'est ça, c'est un référendum pour ou contre le président, quoi. Autant poser la question directement. Bah oui, autant poser la question directement ou autant faire des élections. Ce qui a plus de sens. Plutôt que de demander aux gens est-ce que t'es content ou pas du président, autant lui dire, bah tiens, parmi ces 5 ou 10 candidats, lequel tu veux comme président. C'est une autre manière de faire. Bref. Parlons de référendum, à quand on monte le dernier? Bah, le dernier référendum en France, c'était 2005 sur le traité constitutionnel européen. Bref, bref, bref. Il est 20h40 et on a parlé que de la rentrée de l'exécutif, de Macron, tout ça. Est-ce que vous voulez pas... Alors, j'ai deux articles. J'en ai un sur le coup de Ségolène Royal sur l'Union de la gauche aux universités d'été de LFI, là. Ou alors un autre sur Édouard Philippe, qui est le mieux placé pour rassembler la droite selon un sondage. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Salut Claire. C'est go. C'est go. Ségolène Royal. Édouard Philippe. Doudou Filou. C'est go. C'est go. C'est go. Filou. C'est go. C'est go. Let's go. Royal. Doudou. C'est go. La bravitude. Philippe, s'il te plaît. Ségolène. Édouard Philippe. Eduardo El Magnifico. Bon, ok. Allez, je vous propose qu'on fasse les deux, mais qu'on les fasse vite. Hein, parce qu'après, Bibi, il a faim. Hein. On dirait des articles de 2017. Arrête! Arrête! Arrête de troller. Parlons un peu de la gauche. La gauche, je rappelle, puisque vous étiez en vacances, que ça fait 2 mois que vous étiez en dehors de l'actu, etc., que vous avez oublié, la gauche, c'est les gentils dans l'histoire, d'accord? La gauche, en ce moment, elle est divisée sur un sujet qui est de savoir est-ce qu'il faut aller unis ou pas aux élections européennes qui auront lieu l'année prochaine. Y aller unis, ça veut dire faire une liste unique. Je vous rappelle que le scrutin des élections européennes, c'est un scrutin de liste nationale. Chaque parti a la possibilité de présenter des listes et on peut faire des listes ensemble à plusieurs partis si on veut. Ok? La France Insoumise réclame une liste unique de la NUPES. Les écolos sont pas d'accord et veulent faire une liste autonome dirigée par Marie Toussaint. Les communistes veulent faire une liste autonome communiste, et les socialistes, bah, a priori, ils sont partis pour faire une liste autonome aussi, constatant que de toute façon, il n'y aura pas de liste unique. Et les insoumis continuent à vouloir une union de la gauche aux élections européennes, en partie parce que c'est dans leur intérêt, mais aussi parce qu'ils y croient, dur comme fer. Pourquoi ils ne se sont pas écharpés sur les sénatoriales? Pour une raison très simple, c'est que les élections sénatoriales, on en reparlera si vous voulez la semaine prochaine, on refera des streams, on parlera spécifiquement des sénatoriales. Les sénatoriales sont des élections très particulières. Ce sont les seules élections dont on connaît l'identité des votants et dont on connaît la couleur politique des votants, en grande partie. Ce qui fait que c'est la seule élection dont on peut prévoir à l'avance les résultats. C'est pour ça que les sénatoriales, c'est... Aux élections sénatoriales, je vous rappelle que seuls les élus locaux votent, ce qu'on appelle les grands électeurs. Et les élus locaux, bah, on sait qui c'est, on sait quel est leur rattachement politique, et donc on se doute bien de pour qui ils vont voter. Donc, ça fait... Des discussions pré-sénatoriales, des trucs sans surprise en fait. Il suffit de regarder la couleur politique des élus locaux qui vont voter Tu prends un stylo, une feuille, tu notes et tu peux d'ores et déjà prédire les résultats à peu près, au pif, à peu près. Tu connais les résultats des élections sénatoriales dans le département machin. Tu sais qui vont être les sénateurs élus, voilà. LFI a quand même été exclue des sénatoriales. Ben oui, mais justement, conformément à ce que je viens de te dire, tu comprends que LFI avait raison de ne pas avoir beaucoup d'espoir au sénatorial. Je rappelle que LFI, ils ont plus ou moins choisi de faire l'impasse aux élections municipales de 2020, qu'ils ont très peu d'élus locaux, personne qui a voté pour lui, pour eux. Donc en fait, non, il n'y allait pas avoir d'insoumis élus aux élections municipales, aux élections sénatoriales. Donc je te rassure, les insoumis eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Hein. Ils auraient bien aimé pour le geste être sur une liste par-ci par-là, en position éligible tant qu'à faire. Mais voilà. C'est donc totalement figé sur de très longues périodes. Exactement. Enfin, sur de très longues périodes. Non, mais non. Non, parce que c'est les élections locales, en fait, qui guident le truc. C'est les élections locales, c'est les élections municipales, départementales et régionales, mais surtout les municipales, qui donnent la couleur politique du futur Sénat. Pardon. Pardon. Merci, Vésubie. Pour ton abonnement. Pardon, pardon. Bref, putain, je suis en train de vous parler des divisions de la gauche et on est en train de parler des sénatoriales. J'avais dit que je le faisais vite. On avance. Donc du coup, cet été, il y a eu les universités d'été. Il y avait les universités d'été des partis politiques. Et la France Insoumise a organisé son université d'été qui s'appelle les Amphis de la France Insoumise à Valence, au cours desquels ils ont invité l'ancienne espoir de la gauche à l'élection présidentielle et future chroniqueuse à TPMP, Ségolène Royal, par ailleurs ministre de l'écologie du gouvernement de Manuel Valls, à venir se présenter. Et quand elle est arrivée, elle a lâché une bombe parce qu'elle a dit qu'elle était pour une liste unique aux européennes de gauche et qu'elle voulait, pourquoi pas, en être la tête de liste, donc l'incarnation. Invitée à l'université d'été de la France Insoumise, l'ancienne ministre a pris de court en proposant une liste d'union avec les insoumis. Socialistes et écologistes y voient une tentative de déstabilisation avec le concours de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui la connaissent avaient prévenu. Ségolène Royal préparait un coup cet été. Elle a réussi, vendredi 25 août, à prendre la plupart des responsables de gauche de court en annonçant le lancement depuis les amphis de la France Insoumise d'une liste d'union aux élections européennes de 2024 sous le regard bienveillant du mouvement. On va faire une liste d'union, a-t-elle déclaré depuis Valence, entourée d'une poignée de jeunes militants acquis à sa cause qui l'ont ovationné. Quelques minutes plus tôt, vers 17h, sur scène, aux côtés du coordinateur de LFI Manuel Bompard, elle avait lâché sans développer cette petite phrase en parlant du scrutin européen: Nous allons prendre une initiative. Mieux, l'ancienne candidate à la présidentielle se propose d'en être la chef de file. Bien sûr, je suis disponible pour conduire cette liste, a-t-elle déclaré sous les palmiers du palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, à côté de Valence, là où ont lieu les amphis. Avec qui sur cette liste? Avec la France Insoumise, il y a une cohérence, a-t-elle affirmé, avant de souligner qu'elle s'était entretenue avec les responsables de LFI et que les troupes de Jean-Luc Mélenchon étaient avec elle, bien sûr. Oui, tu vas un peu vite, Ségo, mais dans l'idée, oui. Vendredi midi, l'ancienne ministre socialiste a déjeuné avec Manuel Bompard et la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon est passé pour le café. Ils ont dû se raconter des bons souvenirs. Pour autant, LFI n'assume pas de soutien total à cette initiative, tu m'étonnes, ça les emmerde même. Plutôt une approbation bien comprise. On n'a jamais dit qu'LFI soutenait Ségolène Royal. A tout de suite déclaré la députée européenne Manon Aubry. Manon Aubry qui était la tête de liste en 2019, je rappelle quand même. Quand même moyennement sympa de la part de Ségolène Royal de piquer la politesse à Manon. Ça joue, ça joue. Non, mais ça joue, ça joue. Donc évidemment, tout de suite, les insoumis ils disent attendez, 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 on n'est pas devenus ségoléniste. Pas trop vite non plus, faut pas déconner. Mollo, hein. Donc Manon Aubry, elle a dit non, non, on n'a jamais dit qu'on sautait Ségolène Royal. C'est le 1er avril, a sursauté le député de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, par ailleurs président de la commission des finances à l'Assemblée. Au Havre, où se tiennent l'Université d'été d'Europe Écologie Les Verts, l'insoumise Clémentine Autain a ironisé. Si on avait un doute, Ségolène Royal est une femme audacieuse. Je me souviens quand elle a dit ça. Manuel Bompard, lui, semblait très satisfait. C'est une initiative positive de sa part. Si pour parvenir à une liste d'union, il faut que la tête de liste ne soit pas de nos rangs, on y est prêt, a-t-il ajouté, s'adressant au reste de la NUPES. Est-ce que c'est de nature à convaincre nos partenaires, à eux de le dire? Alors je rappelle que Manuel Bompard avait déjà dit ça. Hein. Les Insoumis, ils proposent une liste d'union aux élections européennes sans faire de la tête de liste un préalable. Ils ont même été plus clairs que ça. Les Insoumis, ils ont dit, c'est vous dire comment ils sont pour une liste d'union, les mecs. Ils ont dit on est prêt à faire une liste, on est prêt à soutenir une liste d'union de la gauche dont la tête de liste serait Marie Toussaint, l'écologiste. Ils sont malins, les Insoumis, de faire ça, ils ont raison. C'est vachement dur à refuser pour les écologistes une proposition pareille. Sur la base des équilibres de 2019, en plus, tant qu'à faire. Ouvert ou désespéré? Ouvert ou désespéré, c'est la bonne question, Perceval. C'est plutôt faire. Ah, c'est plutôt très faire, voire même un peu trop faire pour être honnête. Diront les écolos. Eh, ça joue. Donc, quand Ségolène Royal dit « Je suis prête à mener une liste d'union », Manuel Bompard, il est pas bête, loin de là. Il est très très fin, Manuel Bompard, il dit « Bah, c'est une belle initiative que fait Ségolène. Elle aussi, elle est pour l'union, comme nous, nous sommes pour l'union. Donc tous ceux qui vont dans le sens de l'union, on est pour. » Bon, par contre, quand elle dit que c'est elle qui veut être la tête de liste, avant de vous dire qu'on est d'accord pour que ce soit elle, on commence par vous dire qu'on est d'accord pour que ce soit pas quelqu'un de chez nous. C'est pas cher, puisqu'il avait déjà fait. Mais ça vaut bien de le rappeler. Et effectivement, le journal Le Monde a raison de rappeler que c'est surtout en direction de la NUPES qu'il dit ça. Voilà. Quand Bompard dit « on est OK pour se ranger derrière une autre tête de liste qu'un insoumis », c'est une manière de dire « n'est-ce pas les écolos, les socialistes et les communistes ?» Ségolène Royal s'est expliquée au Monde. Je ne suis pas la tête de liste de LFI. Les Insoumis sont des partenaires privilégiés. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Oui, c'est ça. Partenaire privilégié. Cette annonce, je l'ai faite en ayant leur approbation sur le fait que tout mouvement qui va vers l'Union est bon à prendre. Effectivement. L'ancienne ministre de l'Environnement de François Hollande, qui interviendra chaque semaine dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, à la rentrée, concédait un certain degré d'improvisation. Ce matin, je me suis dit, est-ce que je le fais aujourd'hui? Et puis, j'ai senti la salle. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu Ségolène Royal en 2006-2007, il n'y a pas plus ségoléniste que cette manière de dire, je sens que la salle était prête à mon annonce. Alors, j'ai un rapport comme ça. Voilà, j'adore. Non mais c'est génial, on retrouve Ségolène Royal. Dans son entourage, on souligne que Mélenchon et Royal sont d'accord pour une vision sur l'avenir de la France. Et de la social-démocratie ? Moins sûr. Il se parle depuis la présidentielle de 2022. Quand Ségolène Royal avait affiché son soutien surprise à Jean-Luc Mélenchon, l'estimant le plus solide à gauche, en février. Sur le fond, elle plaide pour la constitution d'un groupe volontaire déterminé pour un ordre juste en Europe et pour inverser la logique du gouvernement par la peur. L'ordre juste, c'était au cœur du programme de Ségolène Royal en 2007. L'ordre juste. L'ordre, oui, mais l'ordre juste. La logistique de LFI s'était mise au service de Madame Royal, vendredi, en organisant son rendez-vous avec la presse. Dans son sillage, Jean-Luc Mélenchon a parlé pendant près de 2 heures lors d'une conférence sur la méthode de l'Union populaire, où il a relevé le défi de ne pas mentionner une fois son invité à sa toute récente proposition. Bien joué. Sur Twitter, il s'est simplement dit ravi de l'accueillir en se félicitant qu'elle se soit clairement prononcée pour une liste unique. À la fin de son discours aux militants, il a lancé cette phrase comme un pied de nez « Il y aura une liste d'union ou bien il y aura une liste des unitaires médités ». Ça, c'est une phrase importante de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra, c'est important. De quoi conforter la thèse d'un coup politique bien compris entre l'ex-socialiste et l'insoumis. À Blois, où les socialistes organisent leur université d'été, c'était la thèse privilégiée vendredi. Pour le député de l'Essonne, Jérôme Gage, Jean-Luc Mélenchon est trop content d'aller chercher de la division chez ses partenaires. Oui. Et en même temps, si ses partenaires n'étaient pas divisés... Jérôme Gage, hein. L'Essonne, ancien compagnon de route historique de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu une trajectoire qui n'est plus la même. Ah, intéressant. Non seulement une liste conduite par Ségolène Royal met les autres partis de gauche au pied du mur, mais elle permettrait à LFI de ne pas être tenue pour responsable si le score n'était pas bon, analyse l'élu. Et oui. Et oui. Il n'a pas tort. C'est vrai que c'est pratique, Ségolène Royal, hein. Si elle réussit, c'est grâce à l'union de la gauche. Si elle échoue, bah c'est parce que c'est ses go, quoi. Parce qu'elle est nulle. Malin. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Mais ça, j'ai envie de dire à Jérôme Guedj. Dis donc, le PS, vous l'avez déjà fait, ça, vous aussi. Envoyer une personnalité de la société civile au casse-pipe, et ensuite l'accuser d'être un peu responsable de la débâcle. Hein? Hein? Eh. On se comprend. Mélenchon va débaucher un écolo qui traîne et expliquer que c'est la vraie liste d'union, corrobore la sénatrice de Paris Marie-Noëlle Lindemann. Les deux écolus connaissent par cœur le fondateur de LFI. Bah tu m'étonnes, putain, Lindemann et Guedj. Les deux élus connaissent par cœur le fondateur de LFI qu'ils ont côtoyé à la gauche socialiste, ce courant du PS confondé par le leader insoumis dans les années 90. Quant à Ségolène Royal, LFI lui offre ce que lui refusent les socialistes. Elle veut revenir, susurre un ancien collaborateur. Avant de se tourner vers Mélenchon, l'ancienne compagne de François Hollande a d'abord tâté le terrain dans son parti d'origine. En mai, elle a pris un long petit déjeuner au Deux Magots, un café huppé de Saint-Germain-des-Prés à Paris, avec Jérôme Guedj. Au bout de 2 heures, elle finit par lui avouer l'objet du rendez-vous, celui d'être la candidate d'une liste d'union de la gauche en 2024. Et il a répondu quoi, Guedj, à ça? Arrête, c'est go, tu dérailles? Ou alors, bonne idée? Ou alors va demander à LFI, ils t'accepteront peut-être? Non, je sais pas, non, j'en sais rien. Quelques semaines plus tard, elle sonde le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Ce dernier lui répond qu'il est sceptique sur sa capacité à convaincre écologistes et communistes de revenir sur leur décision de mener des listes autonomes aux européennes. En 2019, Madame Royal avait déjà envisagé de se présenter en candidate d'Union, en se proposant notamment pour une seconde place sur la liste conduite à l'époque par Yannick Jadot, en vain. Pour le PS, la sortie de Ségolène Royal ressemble à un coup de poignard. Tous savent qu'une candidature de celle qui a figuré au second tour de la présidentielle de 2007 pourrait être préjudiciable pour une liste socialiste. En attendant, il tente de faire bonne figure, tout en reconnaissant une tentative de bordélisation. Le député du Calvados, Arthur Delaporte, préfère qualifier l'annonce de non-événement. Arthur, Arthur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dis surtout que ça t'emmerde. Oui, non mais bon, d'accord. Ok. Jérôme Guedj martèle que l'affaire n'ira pas au bout. C'est le feu de paille de 2023 pour une élection en 2024, minimise-t-il. En vrai, je suis pas loin d'être d'accord avec Jérôme Guedj. Ces déclarations n'engagent qu'elle, a complété auprès de l'agence France Presse le président des députés socialistes Boris Vallaud. Nicolas Maillard-Rossignol, premier secrétaire délégué du PS et principal opposant interne à Olivier Faure, rappelle que l'énarque s'était exprimé de manière ambiguë sur l'Ukraine en septembre 2022, c'est vrai. C'est vrai, quand elle avait mis en doute la réalité des crimes de guerre commis par la Russie malgré les preuves. Ségolène Royal officialise la proximité qui est la sienne depuis quelque temps, a-t-il conclu en référence aux positions de LFI sur la Russie. Putain, j'aurais du mal à dire que Ségo est devenue insoumise. Déjà, j'aurais du mal à le dire. Voilà. Et surtout, j'aurais du mal à me baser seulement sur ses déclarations cheloues sur la Russie pour ça. Alors franchement, t'as pas besoin de chuchoter ta pensée sur le sujet, c'est criant. Non mais vous avez bien compris que, enfin, oui, non mais oui. Pour moi, c'est un feu de paille et à mon avis, dans 2 semaines, on arrête d'en parler. Ça veut pas dire qu'on arrête de faire des blagues dessus. Attention, hein, vous me connaissez. Hein. Puis je vous connais aussi. Attention. Hein. Chez les écologistes aussi, le coup de Ségolène Royal a créé une gêne. La future tête de liste écolo Marie Toussaint et la chef de file Marine Tourdelier ont refusé de s'exprimer. C'est de l'agitprop, estime le député européen David Cormann. Je ne suis pas sûr que ça ajoute de la crédibilité à la proposition d'LFI d'une liste commune. Si même Ségolène Royal est envisagée, c'est que la question européenne est pour eux vraiment secondaire ou accessoire. Moi, j'ai toujours aimé David Cormann pour une seule chose, entre autres, c'est qu'il fout les pieds dans le plat à chaque fois. Mais David Cormann, il peut te tabasser un plateau télé à lui tout seul en lâchant une bombe, en disant non mais attendez, si les mecs en sont à envisager ces go, c'est que vraiment ils sont à la ramasse. Merci David, c'était dans la tête de tout le monde, mais heureusement que tu l'as sorti, quoi. La députée écologiste européenne Karima Delli met en garde, arrêtons de jouer avec cette élection, c'est trop grave. Oh, ça va, carrément, on peut rigoler. Oh là là. Oh là là. Au moins, tu sais ce qu'il pense. Ah, David Cormant, t'es rarement dans le doute, ouais. Non, mais en vrai, j'aime bien David Cormant pour cette raison-là. Ça fait du bien d'avoir des politiques comme ça qui. Royal a beaucoup plus de charisme que Marie Toussaint, ils ont peur les écolos. Je suis pas sûr que ce soit le charisme qui pose problème. Si c'est. Ouais. En vrai, c'est méchant, c'est go, elle est pas mauvaise politiquement, juste elle a été détruite en 2007. Alors, je suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points de Ségolène Royal en politique. Je te ferai juste remarquer que depuis 2007, elle a eu une carrière politique. Elle a été ministre elle a été ministre de François Hollande. Elle a été social-démocrate plus qu'affirmée. Elle a été pas loin d'être proche de Macron au début en 2016-2017. Aujourd'hui, elle est plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle a dit des trucs sur les vaccins. Elle a dit des trucs sur l'Ukraine qui sont vraiment pas ouf. Enfin, bon. Oh putain, c'est vrai, elle était ministre sous Hollande. Ah bah. Oui. Enfin, je. À un moment. On peut pas reprocher aux socialistes d'avoir été socialistes entre 2012 et 2017 et juste oublier Ségolène Royal dans l'équation. Enfin, il y a un moment où juste. Bon, voilà quoi. Est-ce que tu l'inviterais sur Baxit? Bah écoute, si elle joue un rôle dans l'élection européenne, oui, ça m'intéresse. Parce que du coup, autant te dire que j'ai des questions à lui poser. Hein. Ambassadrice de l'Arctique. Oui, elle a été aussi ambassadrice des pôles. Ambassadrice auprès des pingouins de l'étranger, comme on disait. Enfin, comme on disait. Comme disaient les mauvaises langues. Pas moi. Là aussi, elle était pas dans la sauce. Oui, là aussi, elle s'est pris des révélations de Mediapart et tout. Bref. Voir quelques insoumis regarder Ségolène Royal avec bienveillance en 2023 après Jésus-Christ, ça titille chez moi mon sens de l'ironie. Vous pouvez pas m'en vouloir. Pardon. Moi, ça me renvoie à 2006. Ah, c'est une autre époque, hein. L'ironie, je la vois, j'ai explosé de rire quand j'ai appris ce qu'elle avait fait. Ah, mais moi, j'ai hurlé de rire. Me dis, attends. C'est quand même pas les mêmes qui m'ont fait chier avec Hollande à Baxit qui vont voter Ségolène Royal en tête de liste quand même. Ça peut pas être les mêmes. Non, quand même pas. Là, sur le moment, j'ai rigolé. LFI, c'est comme France Inter, ça titille les interdits. Ouais! Quid de la phrase de Mélenchon? Ah oui, je reviens sur cette phrase de Mélenchon où je pense que Mélenchon a parfaitement raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que c'est vraiment la strate que les insoumis ont intérêt à mettre en place. Mélenchon a dit, il y aura une liste d'union ou bien il y aura une liste des unitaires. Méditez. Alors, le connaissant, il a dû dire méditez. Je l'imite très mal. Non, en fait, je me suis interrogé cet été en me demandant c'est quoi la bonne strate pour les insoumis. Maintenant que, de toute évidence, il n'y aura pas de liste d'union, parce que les écolos veulent pas, parce que les socialistes veulent pas, et surtout parce que les communistes veulent pas non plus. Il y aura bien quatre listes de gauche aux élections européennes.
Tout le monde est parti pour faire péniblement 8%, 7%, 9% à tout péter et tout. Quel est l'intérêt stratégique des insoumis? Et en fait, je pense que ce qu'ont intérêt à faire les insoumis, c'est à faire une liste unitaire, à défaut de faire une liste d'union. C'est quoi une liste unitaire? C'est une liste qui rassemble des gens, des candidats, issus des mouvances écologistes, socialistes, communistes et insoumises. Donc, à défaut d'avoir l'aval des partis pour faire une liste d'union, ils auront sur leur liste des faire-valoir qui viennent des écoles de pensée, des écolos, des machins, de manière à les afficher en disant: regardez notre liste, c'est nous l'union. Regardez, à défaut d'avoir une liste soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti écologiste, nous avons une liste sur laquelle nous avons des écologistes, des communistes et des socialistes. Donc, si vous, électeurs de gauche, vous êtes pour l'union de la gauche, votez pour cette liste. Et ils auraient parfaitement raison de faire ça, les insoumis. Ils ont raison. Il faut qu'ils fassent ça. C'est le meilleur moyen de niquer les écologistes, les communistes et de faire le plein de voix. C'est la bonne strate, en fait. C'est dire, bah, nous, on voulait l'union, ils n'en voulaient pas, et ben on va quand même faire l'union sans eux, et on va dire aux électeurs: vous qui vouliez l'union, la voici. Pas bête. J'ai pas compris. Regarde, exemple, Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle est identifiée comme socialiste. Elle n'est pas membre du Parti Socialiste, Ségolène Royal, je vous rappelle. Elle fait ce qu'elle veut, Ségolène Royal. Elle peut se présenter sur une liste insoumise si elle a envie. Si Ségolène Royal est sur une liste insoumise, c'est un clin d'œil envoyé aux électeurs socialistes en leur disant: regardez, Ségolène Royal est avec nous. Tu fais pareil avec un écologiste. Alors, je ne sais pas quel écologiste tu prends. Tu prends quelqu'un de médiatique, tu prends quelqu'un d'un peu connu, tu prends, je ne sais pas, quelqu'un d'identifié par l'électorat écologiste comme étant un écolo, sincère, militant pour le climat, je ne sais pas, tu prends un jeune, tu prends une Camille Etienne, un Noël Mamère, tu vas chercher quelqu'un, tu vas chercher un vieux si tu veux, Eva Joly, peu importe. Tu mets quelqu'un, Claire Lejeune, la chroniqueuse de Backseat, voilà, qui est identifiée écolo, mouvement climat, tout ça. Tu la mets sur ta liste et tu dis: regardez, nous avons déjà une socialiste, une écolo sur la liste. Ensuite, tu vas chercher une communiste ou un communiste, quelqu'un identifié communiste, je sais pas qui. Tu vas chercher quelqu'un d'un peu connu, un élu, quelqu'un de respecté, machin et tout. Tu te démerdes. Bref, tu construis une liste dans laquelle tu vas débaucher à droite à gauche des personnes qui te permettent de présenter sur ton affiche de campagne, sur tes meetings, dans ta campagne, dans les médias, une liste multicolore d'union. Et tu dis aux gens: la voilà l'union. À défaut d'avoir les logos des partis qui certifient cette union, nous vous certifions que nous sommes bien une liste de toute la gauche. Et ça, je suis désolé, mais si tu fais une liste comme ça, il y a plein d'électeurs de gauche, à mon avis, dans le chat, qui auront envie de voter pour cette liste-là. En se disant: bah ouais, moi je suis pour l'union, donc j'ai quand même envie d'envoyer un signal en disant j'ai envie de sanctionner les écolos qui étaient contre l'union, donc je vais voter pour cette liste unitaire. Vous voyez? Les électeurs ne pensent pas vraiment en termes de parti, mais plutôt en tête d'affiche. Les gros électeurs connaissent à peine le second couteau. Et bien justement, c'est pour ça que tu prends que des têtes d'affiche. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as raison, c'est pour ça que tu prends que des têtes d'affiche. Donc, on verra. Vous vous doutez bien que ça fait partie des questions que j'ai très très hâte de poser à mes invités dans d'hypothétiques émissions Backseat Futures. À suivre la suite de cette aventure. La question, c'est qui vote Ségolène Royal? Bah, les insoumis, visiblement, ils hésitent. Ça va, je rigole, je rigole, je rigole. Hop. Présidentielle 2027, Édouard Philippe, de très loin le mieux placé pour rassembler la droite selon un sondage. C'est un article très court que j'ai trouvé intéressant à suivre. La personnalité d'Édouard Philippe, sa trajectoire, ses prises de position. Édouard Philippe, souhaite-t-il prendre la succession d'Emmanuel Macron malgré ses relations avec le président de la République qui ne sont pas au top. Un sondage Opinionway pour Le Parisien place l'ancien Premier ministre en tête des personnalités susceptibles de rassembler la droite et le centre. Entre Le Havre et Paris, bison futé voit vert dans le sens des retours. C'est validé, c'est validé. Non, je valide cette introduction d'article. Le Figaro, je sais pas qui est-ce qui a écrit cet article. PS. Le Parti Socialiste publie dans le Figaro, tiens. Bon. Entre Le Havre et Paris, bison futé voit vert dans le sens des retours. D'après un sondage OpinionWay dévoilé en Une du Parisien dimanche, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe devance largement les autres personnalités de la droite et du centre pour rassembler son camp lors de la prochaine élection présidentielle. 42% des Français sondés le voient jouer ce rôle, loin devant Bruno Le Maire, 27%. Gérald Darmanin et Xavier Bertrand, 22% chacun, et Laurent Wauquiez, 17%. Putain, Wauquiez, c'est la débandade. Oh, Wauquiez, qui est censé être la botte secrète de Ciotti pour rassembler la droite, tel le phénix, 17%. Édouard Philippe, 42%. Édouard Philippe est aussi le chouchou des sympathisants LR et UDI, qui, lorsqu'ils sont interrogés seuls, sont 66% à le voir dans le rôle du rassembleur, suivi cette fois-ci de Xavier Bertrand, devant Bruno Le Maire. Oh, l'humiliation pour Wauquiez. Les sympathisants LR préfèrent Édouard Philippe à Xavier Bertrand et Bruno Le Maire. Et Laurent Wauquiez, du coup. Ah, mais je suis pas abonné aux Parisiens, fais chier. Faut que je m'abonne aux Parisiens. Non, mais j'ai plus les moyens, moi. La clim pour Wauquiez, non mais la clim elle est intense. Hein. Dans les intentions de vote, pour qui seriez-vous prêt à voter en 2027 ? Édouard Philippe arrive même devant Marine Le Pen avec 33% d'intention de vote chez l'ensemble des Français, contre 30% pour la présidente du RN. Édouard Philippe, 1 Français sur 3 est prêt à voter pour lui au premier tour. Hein, au premier tour. En termes de rassemblement, t'as Édouard Philippe à 33%, Marine Le Pen à 30%. Il va être cher le second tour. Il va être cher le second tour. Se qualifier au second tour en 2027, ça va être cher. Elle se représentera, Marine Le Pen ? Oui. Les sondages à 4 ans. Oui, oui, non, mais t'as raison, les sondages à 4 ans. Mais ça donne une idée quand même, hein. Ça donne une idée de l'équilibre en l'état actuel des choses. Laurent Wauquiez a tout de même de quoi se consoler. Ah bon ? Auprès des sympathisants LR et UDI, il est le deuxième vers qui se tournent les intentions de vote, puisque 54% d'entre eux envisagent de voter pour lui en 2027. Ah ! Mais là encore, Édouard Philippe est devant, avec 60% des Français de droite et du centre qui s'imaginent peut-être lui donner leur voix. Même auprès des sympathisants LR et UDI. Édouard Philippe est devant Wauquiez. Ça pique, hein. Ça pique sec pour Laurent Wauquiez. Et c'est intéressant pour Édouard Philippe qui joue un rôle. La vraie difficulté pour Édouard Philippe à suivre. Abonnez-vous à ma chaîne. La vraie difficulté pour Édouard Philippe, ça va être de ne pas passer pour le traître à Macron, mais de ne pas non plus passer pour l'héritier. En gros, il faut qu'Édouard Philippe réussisse à faire ce que Sarkozy a fait à la Chiraki en 2006. Ça va être dur. Hein. Réussir à renouveler l'entrain de l'électorat de droite et du centre. Tout en n'étant pas l'héritier. Pour à la fin faire la même politique. Sarkozy n'a pas fait la même politique que Chirac. Mais tu veux dire Édouard Philippe par rapport à Macron ? Ça, je sais pas. Ça, il faut qu'Édouard Philippe nous dise quelle politique il veut mener. Pas trop le choix vu la situation. Et Macron Premier ministre ? Je pense que si Édouard Philippe est élu président de la République en 2027, parmi les 65 millions de Français... Et il choisira pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron arrivera assez loin dans la liste des envies d'Édouard Philippe. Ouais. En tant que vieillard, je découvre Twitch et c'est super cool. Bonne continuation, je vais me coucher. Salut vieux, des bisous. En gros, Philippe, les gens de droite non RN se disent que c'est le seul qui peut unifier l'électorat macroniste et LR, en sachant que beaucoup d'anciens électeurs LR ont voté macroniste depuis 2017, notamment en IDF, et donc le seul qui peut éviter une droite troisième et un second tour Le Pen contre un candidat de gauche. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Objectivement, c'est vrai qu'Edouard Philippe est bien placé pour unifier le centre et la droite. Est-ce qu'Edouard Philippe parviendra à créer une opposition frontale à l'extrême droite permettant éventuellement d'aller grappiller des voix chez les électeurs de Marine Le Pen? Est-ce qu'Edouard Philippe va être le ressuscitateur de la droite sociale? Des chrétiens de droite, enfin des chrétiens sociaux, par opposition à une fuite en avant sécuritaire et autoritaire à la Darmanin, Ciotti Darmanin. Que de questions, mes amis, que de questions. On va pas s'ennuyer cette année. Et ça me fait plaisir de vous retrouver, en vrai, pour ce petit stream de rentrée revue d'actu, on se remet dans le bain. Bon, il y en aura d'autres des streams de rentrée revue d'actu, parce qu'on a pas fini de faire le tour, là. Ouh là là, on n'a pas fini de faire le tour. Il reste encore plein de trucs à aborder. Merci Toc, merci Tenvalmestre, merci à tous hein, pour vos subs et vos resubs. Franchement, ça fait du bien de tomber sur un live intellectuel, ça change. Vous habituez pas trop, hein. On raconte quand même beaucoup de conneries, on fait des blagues de très mauvais goût. Sur cette chaîne. Et on s'excuse même pas. En vrai, merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Premier ministre des Gilets jaunes égale droite sociale. Ah bah c'est le Premier ministre qui a voté un paquet de 17 milliards d'euros de mesures sociales dès Noël 2018. Qui a arrêté la taxe carbone, je vous rappelle. C'est le Premier ministre qui a arrêté la taxe carbone, c'est le Premier ministre qui a arrêté Notre-Dame-des-Landes, c'est le Premier ministre qui a arrêté la Montagne d'Or en Guyane, c'est le Premier ministre qui a arrêté le Lyon-Turin, le canal Seine-Nord. Enfin, le Lyon-Turin, c'est pas encore définitif. Il pourrait presque plaire aux écolos, dis donc. Et qui en même temps voulait la retraite à 65 ans. Ah oui, alors ça par contre, ça c'est un Premier ministre sur les finances publiques, Edouard Philippe, il rigole pas. Hein. Les LR mettront un candidat face à Philippe en 2027. Oui. Mais lequel? Et avec quel... Est-ce que Laurent Wauquiez fait le poids face à un Edouard Philippe? Dans l'esprit des électeurs de droite, je pense. Je dis pas pour moi, je m'en fous, ni pour vous si vous n'êtes pas de droite. Mais est-ce que, sur cet électorat-là, dont on sait l'importance qu'ils accordent à la crédibilité, au poids politique, à la respectabilité, etc., est-ce que Laurent Wauquiez fait arme égale avec un Edouard Philippe? Point d'interrogation, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que l'électorat de droite reprochera à Edouard Philippe d'avoir été trop à gauche parce qu'il était le Premier ministre d'Emmanuel Macron et que donc, si t'es vraiment un électeur de droite, tu votes pas pour un macroniste. Peut-être. Peut-être qu'à l'inverse, ils se diront machin, quand même. Tout bien réfléchi, Edouard Philippe, c'était les bonnes années de Macron. Au moins quelqu'un qui savait bosser, machin, machin. Je ne sais pas. En vrai, ça peut jouer. Wauquiez fait vieille droite conservatrice catho. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est, encore une fois, c'est une question de perception. Personne à droite fait le poids actuellement avec Philippe. Bah... Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Bah, c'est ce que ce sondage vient nous dire. C'est qu'objectivement, quand tu demandes aux gens de droite aujourd'hui qu'est-ce qui fait le plus de poids, ils te répondent Edouard Philippe. Pour le meilleur comme pour le pire, j'en sais rien. Je l'aime beaucoup, Wauquiez, sorry. Non, mais c'est pas... Encore une fois, c'est pas une question d'apprécier ou de pas apprécier, c'est une question de préférence et de comment est-ce que tu doses... Je ne sais pas. De toute façon, encore une fois, il reste 4 ans avant la présidentielle, autant vous dire que des surprises, on va en avoir. C'est quand le prochain stream? Alors je vais faire un stream demain. Alors, attends, j'ai une réunion à 15h et une réunion à 18h. Donc dans l'après-midi, probablement entre 16h et 18h, ouais. Euh, Soyez là demain sur mon stream, parce que si vous êtes sage, il y aura peut-être une annonce. Passez une bonne soirée.